du Venice, vous allez entendre le message L'Absolu, prêché le 30 décembre 1962 par notre précieux frère et prophète William Marion Branham. Je suis tellement heureux d'être ici ce matin et d'entendre cette exhortation comme je venais sur l'estrade. Je regrette d'être en retard, mais il y avait des malades à l'arrière et des voitures, une sorte d'ambulance, et j'ai dû m'occuper de ceux qui ne pouvaient pas entrer, vous voyez, avant d'entrer moi-même. Maintenant, je me demande si la sœur qui a le petit enfant, si elle ne peut pas revenir cet après-midi. Je veux prêcher aussi ce soir, si le Seigneur le veut. Si elle ne peut pas revenir pour la présentation, alors bien que je sois resté debout ici longtemps cette fois-ci, eh bien, dites-lui qu'elle peut amener le bébé maintenant. Mais si elle peut revenir ce soir, ce sera un petit peu mieux pour nous. Mais faisons selon ses possibilités, peu importe. Eh bien, si elle ne peut pas revenir, nous amènerons ce petit enfant maintenant pour la présentation. Et maintenant, tout c'est pendant que je suis en train de parler, si elle veut s'avancer maintenant, ce serait le bon moment. Maintenant, ce soir, il y aura quelque chose de très spécial. Je veux parler sur un sujet intitulé « Messieurs, est-ce le temps? » Ce sera un message prophétique, donc si le Seigneur le veut, je veux parler ce soir sur ce sujet. Est-ce l'heure, monsieur, ou monsieur, est-ce le temps, plutôt? Et alors, je veux saisir l'occasion en présence de l'Église. Il y a eu bien des choses qui sont arrivées dans ces tout derniers jours qui convergent vers un grand quelque chose que je ne comprends pas. Mais nous sommes toujours, les voies de Dieu dépassent toute compréhension humaine. Nous devons donc marcher par la foi. Si quelqu'un pouvait expliquer Dieu, alors ce ne serait plus nécessaire d'avoir la foi, parce que vous sauriez alors. Mais nous marchons simplement par la foi. Et ce matin, j'ai pensé que j'essaierais d'avoir simplement un service habituel d'évangélisation, parce que j'ai ensuite changé d'idée après que je sois venu ici, et que j'ai vu tellement de personnes debout et qui ont attendu si longtemps. Et alors ce soir, peut-être qu'il y aura beaucoup moins de personnes ici. Et alors, je pourrais aller de l'avant avec ceci, avec ce que je veux dire. Il y a une chose que j'aimerais annoncer alors que beaucoup d'entre vous sont rassemblés. C'est quelque chose que je n'ai pas annoncé cette dernière semaine. C'est que vos prières ont été exaucé concernant cette affaire d'impôt que j'ai eue avec le gouvernement. C'est réglé. Nous sommes donc, c'est entièrement terminé maintenant. Comme beaucoup d'entre vous le comprenez, ce qu'ils avaient contre moi, c'était ces chèques qui avaient été destinés à la campagne. Et pourtant, ils essayèrent de dire qu'ils étaient à moi. Ils voulaient me faire payer 350 000 $ environ, comme si ces choses étaient ma propriété personnelle. Et ce n'était pas le cas. C'était pour la campagne. L'Église est au courant de cela. Vous tous, vous êtes au courant de cela. Et finalement, ils en sont arrivés au point où, je vous donnerai simplement un petit aperçu de ce qui est arrivé. Ils avaient passé près de 3 à 5 ans, près de 5 ans, je crois, sur cette affaire. Ils revenaient plusieurs fois, regardant le caractère et puis le reste. Je suis reconnaissant qu'ils n'ont pas pu trouver quelque chose contre moi. Ils n'ont donc pas pu m'accuser pour cela. Il n'y avait donc aucune base d'accusation, si ce n'est, ont-ils dit, mon ignorance, je pense, ne sachant pas grand-chose de la loi. On m'apportait les chèques et je les signais, j'y mettais mon nom et je les plaçais dans la campagne. Mais alors, dès l'instant où je mettais mon nom sur eux, ils étaient à moi, vous voyez. Peu importe, on m'a dit, c'est très bien pour vous comme cela, mais ils vous appartenaient et ensuite vous les avez remis à l'Église. Mais dès que vous avez mis votre nom sur cela, ils étaient à vous. Peu importe à quoi ils étaient désignés, ils étaient libellés à votre nom. Ainsi, ça avait été mis, quelqu'un avait marqué là-dessus, don personnel, cela aurait été en règle, mais ils ont simplement écrit William Branham, voyez-vous. Et alors, quand j'ai apposé mon nom là-dessus, ça y était, tout était là. Ils étaient donc, et alors finalement, par la prière. Et alors, il n'y a pas longtemps, vous savez, j'ai eu la vision d'un homme de grande stature, foncé, noirci par la fumée, noir de suie, couvert d'écailles comme un alligator, s'avançait vers moi avec des doigts de fer. J'avais juste un petit couteau comme cela et il était marqué sur lui « Gouvernement des États-Unis ». Et je ne pouvais rien faire, j'étais impuissant. Et alors, le Seigneur entra en scène et il fut vaincu. Vous vous rappelez lorsque je vous en ai parlé il y a longtemps? Ils ont offert un compromis l'autre jour. Et mon avocat, M. Orbison, à New Albany et Ice Miller, à Indianapolis, s'occupant de cette affaire d'impôts, m'ont téléphoné, m'ont dit de venir les trouver. Je suis donc allé, il y avait frère Orbison et moi et mon épouse et les administrateurs de l'Église ici et nous tous, et nous sommes allés. Ils nous ont dit que le gouvernement était prêt à faire des compromis. J'ai dit, si je dois quelque chose à quelqu'un, je le paierai. Et je ferai de mon mieux, mais cela, je ne le dois pas. J'ai donc dit, c'est honnêtement, Dieu le sait. Et alors, pourquoi ne présente-t-il pas des accusations contre moi? Si je suis coupable, cela fait 5 ans qu'ils essaient de le faire, cela, mais ils n'ont pas pu rien trouver pour le faire. J'ai donc dit, non, je refuse, je ne le paierai pas, tant qu'ils n'ont pas prouvé que je le dois. Et alors, l'avocat m'a fait entrer, m'a parlé, m'a dit, eh bien, on peut faire passer cette affaire en tribunal. Le gouvernement le fera. Et à ce moment-là, la seule chose qu'ils peuvent trouver contre vous, c'était que vous, la manière dont je l'ai fait, je ne sais pas du tout tenir une comptabilité. J'ai dû donc faire cela de la manière que je pensais être honnête. Cela n'a jamais été déposé en banque à mon nom. Cela a toujours été déposé en banque au nom de l'Église, de la campagne, voyez-vous. Il n'y avait donc rien que je puisse faire à ce sujet. Il m'a dit, eh bien, ils sont prêts à faire un compromis pour 15 000 $ avec 10 000 $ d'amende et les frais d'avocat s'élevaient à 15 000 $, ce qui fait 40 000 $. Et alors, ils en veulent encore 5 de plus, je crois, maintenant. Je suis donc allé. J'ai dit, mais où au monde pourrais-je trouver 40 000 $? J'ai dit, vous connaissez mon compte en banque ici? Il a dit qu'il y a environ 100 $ ou peut-être moins. J'ai dit, mais où trouverais-je 40 ou quelques 1000 $? Et j'ai dit, je n'ai rien à mettre en nantissement. Je n'ai pas du tout cela, c'est tout. Il m'a dit, Monsieur Branham, voici ce qui se passe. Si nous faisons passer cette affaire en tribunal, sans aucun doute, nous pouvons gagner la partie. Il a dit, mais voici, nous pouvons gagner la partie parce que voici ce que je ferai. Ils vont prétendre que tout cela vous appartient parce que vous y avez apposé votre nom. Ils vont prétendre que cela vous appartient, bien que cela ait été déposé en banque au nom de la campagne de l'Église, de la campagne Branham, et ensuite d'une église. Et pas une seule fois n'ont-ils pu trouver un centime que j'ai dépensé pour moi-même. C'est la vérité, Dieu le sait, il y a des hommes ici maintenant qui ont été avec moi pendant tout ce temps. Il n'y a pas eu un centime que j'ai jamais dépensé pour moi-même. Tout cela était pour le royaume de Dieu, partout, chaque chèque et sur tout le reste. Mais voyez cela, ainsi peu importe, c'était censé être à moi, premièrement, et ensuite c'était à l'église ou à la campagne. Et ils ont une façon de faire cela, vous savez, toutes sortes de moyens de s'en sortir. J'ai alors dit, eh bien, je ne ferai pas cela. Il a dit, eh bien, si nous gagnons le procès ainsi, parce que je les déclarerai comme des dons personnels, voyez-vous. Je déclarerai cela auprès du gouvernement comme des dons personnels. Et il a-t-il dit, alors quand j'aurai fait cela, tout ce qui dépassera 10 000 $ sera considéré comme un héritage. Et alors, vous vous retrouverez là-dedans, ils vont vous retenir encore 5 ans pour vérifier tout cela. Voyez-vous, quand vous écrivez un chèque, cela passe par la chambre de compensation, il faut photocopier ce chèque. Bien sûr, j'avais aussi tous ces chèques. Et il m'a dit une autre chose, M. Branham, s'il arrive ainsi que vous fassiez l'objet d'une telle enquête, gouvernemental comme cela, peu importe ce que vous ferez aux yeux du public, vous êtes un escroc. Voyez-vous, c'est tout. Regardez ce petit prédicateur baptiste là-bas au Mississippi. Cet homme, une femme a dit qu'il était entré et qu'il l'avait insulté. Et cet homme a amené la preuve venant de partout dans le pays qu'il n'était même pas en ville plusieurs jours avant ou après le jour en question, à tel point que le juge voulait qu'il se retourne contre cette femme et la poursuive pour diffamation. Il a dit, laissez-la aller. Et quand ils ont fait un sondage dans le pays, vous savez ce qui est arrivé? 75% des Américains ont dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et ce pauvre homme, tout ce qu'il y a de plus innocent, comme moi ou n'importe qui d'autre, devra porter cela le reste de ses jours, alors qu'il n'avait absolument rien à faire avec cela. Cela m'a fait de la peine pendant un certain temps que penser que j'avais consacré ma vie au royaume de Dieu pour essayer de faire en sorte que les gens paient leurs impôts et fassent tout ce qui est juste et faire que des escrocs deviennent des hommes honnêtes et ensuite être considéré moi-même comme un escroc. J'ai pensé, mais au monde, qu'ai-je fait? Et alors, cela m'est venu à la pensée et j'ai regardé dans la Bible, chaque homme dans la Bible, sans exception, qui a eu une fonction spirituelle, si Satan ne pouvait pas les avoir avec la moralité ou quelque chose ainsi, c'est le gouvernement qui les attrapait. Revenez, regardez n'importe quel cas que vous voulez. jusqu'à Moïse, Daniel, les enfants hébreux, Jean-Baptiste, Jésus-Christ, que le gouvernement a fait mourir, peine capitale, Paul, Pierre, Jacques, le grand Jacques, le mineur, chacun d'entre eux, c'est le gouvernement qui les a fait mourir, parce que chaque gouvernement est le siège de Satan. Jésus l'a dit, la Bible le dit. Voyez-vous, chaque gouvernement est contrôlé par le diable. Il y a un gouvernement qui sera contrôlé par Christ, mais ce sera dans le millénium. Mais ce gouvernement actuel, peu importe combien nous pensons qu'ils sont bien, pourtant par derrière, ils sont dominés par Satan. Ces royaumes, a-t-il dit, m'appartiennent. Je fais avec eux comme je l'entends. Je te les donnerai si tu m'adores. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Tu adoreras le Seigneur et lui seul, tu serviras. Et alors, je me suis découragé. Ma femme est en train de m'écouter. Je suis à la maison et j'ai dit, alors ça, non. Si je le dois, je le paierai. Je ne le dois pas et je ne vais donc pas le payer. Un point, c'est tout. Et j'ai dit, de toute manière, comment puis-je le payer? Je suis donc à la maison. J'ai dit, Meda, lave le visage des enfants, prépare leurs habits. Je pars. J'ai dit, ils ne veulent même pas. Tout est sans dessus dessous. J'ai dit, qu'ai-je donc fait? Dis-le-moi. J'ai dit, moi, devoir 40 000 $ Pfiou! Tu ne réalises pas ce que cela veut dire pour moi. Et elle est venue comme une gentille petite épouse. Et j'ai dit, je pars. Elle m'a dit, tu penses que ça va rimer à quelque chose? As-tu déjà prié à ce sujet? J'ai dit, eh bien, peut-être que je ferais mieux de prier à nouveau. Je suis donc retourné dans mon bureau et il me semblait comme s'il me citait un passage de l'Écriture. Vous voulez toujours observer l'Écriture, ce que Dieu a fait à ce sujet, voyez-vous? Et un jour, on lui a demandé, vous savez, alors qu'on essayait de l'accuser par rapport au gouvernement, on lui a dit, est-ce bien juste pour nous, Juifs, qui sommes libres, de payer le tribut ou des impôts à César? Il a dit, avez-vous un denier? Il a dit, de qui est-ce l'inscription? On lui a répondu, de César. Il a dit, rendez donc à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. J'ai pensé à cela, j'ai ouvert la Bible et j'ai lu cela et j'ai pensé, c'est vrai Seigneur, c'est juste, mais ceci n'appartient pas à César, c'était à toi. Ce n'était pas à César. Si cela avait été à moi et que je devais payer davantage d'impôts, eh bien, ça aurait été différent. Cela appartient à César, mais ceci est à toi. Et premièrement, cela n'a jamais appartenu à César. Vous savez, il a toujours la réponse dans la parole. J'ai lu un petit peu plus loin où il a dit, « Dis donc, Simon, n'as-tu pas un hameçon dans ta poche? Tu as toujours sur toi un petit hameçon et une ficelle. Je viens de faire un dépôt ce matin dans une banque gérée par des poissons, là-bas à la rivière, tu sais. » Il a dit, « J'ai fait un dépôt. » Et le banquier va certainement redonner ce qu'il a. Descends là-bas et jette l'hameçon dans la rivière et quand tu arriveras à la banque, ouvre sa bouche et il te donnera la pièce. Ne les scandalisons pas, ne les offensons pas, vois-tu? Va payer cela, Simon, ce sera pour moi et pour toi. J'ai pensé, c'est vrai, oh Dieu. Tu as des banques gérées par des poissons et tout le reste à travers le pays. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais nous sommes allés là-bas. J'ai pris les frères ici de l'église qui étaient derrière moi et j'ai rempli un avis de retrait. J'ai donc reçu 40 000 $ et j'ai pu régler cela. Je suis rentré à la maison. Je voulais savoir comment j'avais écrit ce chèque. Ils allaient me faire des histoires à ce sujet. Et j'ai dit, c'est pour dire que je suis libéré de tout impôt. Quiconque endossera celui-là sera certainement dans de beaux draps. J'ai téléphoné plusieurs fois à la banque pour voir s'ils le feraient, et finalement, Bob m'a dit, Billy, ils l'ont accepté. Je suis ensuite allé dans la pièce où se trouvait ma femme, et je l'ai entouré de mes bras, et j'ai dit, chérie, je suis libre, quel bien cela fait de se sentir libre. Et aussi, je peux rembourser cela maintenant, ils ont vraiment rendu la chose la plus facile pour moi. Je peux le rembourser à la raison de 4 000 $ par année, mais maintenant, je ne peux plus me permettre de flâner. Mes amis, je dois sortir et aller travailler. Ça me prendra donc 10 ans pour le rembourser si Jésus ne revient pas. Et quand il reviendra, toutes les dettes seront réglées de toute façon, vous voyez. Ainsi, j'espère que vous tous, vos prières, et ce soir, je continuerai avec quelque chose un peu en rapport avec cela, mais vos prières sont ce qui m'a aidé. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Peu importe où nous pouvons, une fois nous trouver, je ne l'oublierai jamais. Ce soir, si le Seigneur le veut, je désire exposer certains faits que je connais. Soyez donc sûrs de venir. Et rappelez-vous maintenant, messieurs, quelle heure est-il? Maintenant, nous allons, je crois qu'ils ont un horaire bien rempli pour le reste de cette semaine. Et lundi soir, il y a des services aujourd'hui, et ce soir, et lundi. Lundi soir, il y a le service de longue veille. Et alors, cela vous donne mardi, le premier de l'an. si vous êtes de l'extérieur pour vous permettre de rentrer chez vous. Et nous aurons quelques bons serviteurs ici pour cette réunion, un bon groupe de bons orateurs. Et chacun parlera à tour de rôle jusqu'à minuit. Et parfois, ils prennent la communion. Je ne sais pas s'ils vont la faire cette fois-ci ou non. Alors, qu'ils feront la noce, crieront, tireront des coups de feu, boiront et se conduiront mal, nous prendrons la communion. Amen. Nous commencerons la nouvelle année de la bonne manière avec la communion. Eh bien, vous êtes tous invités et j'espère que vous, que le Dieu du ciel vous donnera l'occasion de rester jusque-là, si vous le pouvez. Maintenant, avant d'aborder la parole, j'aimerais aussi dire ceci, que je remercie certainement cette Église, ses membres, pour ce beau complet que vous m'avez acheté. Merci beaucoup, cela représente tellement pour moi. Toutes vos cartes et autres reçues pendant la période de Noël, et les cadeaux que vous avez envoyés à la famille, et oh, ils me semblaient innombrables, et rien ne peut autant toucher mon cœur que de savoir que cela vient de vous. Et certains d'entre vous m'ont envoyé leur cadeau de Noël en argent, et certains m'ont envoyé, comme ce certain frère qui m'a envoyé un portefeuille qu'il avait fait faire avec mon nom dessus et une petite broche dans laquelle vous regardez et qui trouve la prière du Seigneur. Et oh, des choses comme cela auxquelles nous attachons une grande valeur. Mon épouse et moi et les enfants voulons vous dire merci beaucoup. C'est si peu, mais je dirais ceci, et c'est, je pense, la plus belle parole que l'on puisse dire à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Il ne peut rien avoir de plus grand. Et maintenant, en ce qui concerne ces frères de l'Église ici qui m'ont acheté ce fusil, j'ai porté mon complet, mais je ne pouvais pas amener le fusil à l'Église. Mais c'était, il aurait vraiment eu quelque chose contre moi à ce moment-là, n'est-ce pas? Je vous remercie certainement, mes frères. J'allais lire leur nom sur un petit, mais un des frères a passé me voir hier et m'a dit, « Oh, ne me remerciez pas, frère Branham, cela en enlèverait toute la joie, voyez-vous? » J'ai donc pensé peut-être que les autres pensent la même chose, mais j'ai votre nom, ils l'ont tapé à la machine. Je m'en rappellerai toujours, et que le Seigneur vous bénisse grandement. Et vous savez que ce que je fais pour me détendre, je vais dans mon cabinet d'études et m'assois là et je revis les événements. Et quand je suis si tendu que je ne peux pas aller plus loin, alors je pense à quelques tournées de chasse que j'ai fait quelque part ou un endroit où je puis aller à la pêche. J'apprécie cela, que Dieu vous bénisse. Maintenant, pouvons-nous incliner nos têtes un instant comme nous abordons la parole? Je suis certain qu'il y a des requêtes ici ce matin qui sont trop nombreuses pour les énumérer maintenant. Je me demande donc, alors que nos têtes sont inclinées, votre requête spéciale, si vous la gardiez dans votre cœur en levant votre main et disant, « Oh Dieu, tu sais à quoi je pense maintenant? » Seigneur Jésus, tu vois chaque main et tu sais ce qu'il y a là derrière, là au fond, derrière cette main, se trouve une requête. Et nous venons maintenant, respectueusement, au trône du Dieu vivant, cette grande perle blanche qui s'étend à travers l'espace du temps, là où Dieu Jéhovah est assis et le sang de Christ se trouve sur l'autel. Et nous parlons par-dessus le sang de celui qui a dit, « Tout ce que vous demanderez aux nos pères en mon nom sera accordé. » Ce matin, ô Dieu, ne vas-tu pas entendre et exaucer leurs requêtes? Je dépose ma prière avec la leur aujourd'hui, afin que tu accordes cela. Voici ici devant moi des mouchoirs, Seigneur, pour les malades et les affligés. Et on nous enseigne dans cette Bible qu'on prenait des mouchoirs et des linges qui avaient touché Saint Paul. On les plaçait sur les malades, et des esprits impurs sortaient d'eux, et les maladies les quittaient. Et Père, nous le savons depuis longtemps, nous le savons certainement que nous ne sommes pas Saint Paul. Mais après tout, nous sentons que ce n'était pas Saint Paul, c'était le Christ qui était en lui. Et tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, d'après l'Écriture. Maintenant, ces gens, Seigneur, croient que si nous demandons cela à Dieu et que nous prenons ce mouchoir et les posons sur les malades, qu'ils seront guéris. Je te prie qu'il en soit ainsi, Seigneur, lorsque ces mouchoirs seront placés sur les malades. Comme cela a été dit une fois, Israël s'est mis en route dans l'exercice de ses fonctions, se rendant vers la terre promise et la mer Rouge qui lui coupait la route alors qu'il remplissait son devoir. Mais Dieu regarda à travers cette colonne de feu avec des yeux courroucés, et cette mer eut peur, et elle fit reculer ses vagues, ses eaux, et Israël passait à pied sec pour aller vers la terre promise. Maintenant, Seigneur, aujourd'hui, regarde à travers le sang de Jésus. Et tu vois cet acte de foi que nous accomplissons ici ce matin, et puisse Satan avoir peur et s'en aller. Et puisse chacun de ces pèlerins qui est présent, et chacun de ceux qui, sur qui ces mouchoirs seront posés, que la route soit ouverte, que la maladie s'en aille, et puissent-ils continuer leur voyage vers la terre promise, étant conduits par le Saint-Esprit, la colonne de feu. Accorde-le, Seigneur. Maintenant, bénis les services, les paroles, le contexte, la lecture, et puisse le Saint-Esprit prendre la parole ce matin et nous la répartir à chacun avec douceur, Seigneur, alors que nous approchons de quelque chose de grand, de formidable, que nous ne connaissons pas encore. Nos cœurs sont étrangement renoués, Seigneur. Et nous te prions maintenant, alors que nous nous approchons respectueusement de toi et de ta parole, d'interpréter cela et de nous en donner la signification, car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, ce soir, n'oubliez pas l'heure. Quelle heure est-il? Et maintenant, ce matin, j'aimerais vous faire prendre dans les Écritures, vous qui avez vos Bibles ou qui désirez l'inscrire, le passage à partir duquel nous voulons parler pendant quelques instants se trouve dans le livre des Actes. Nous lirons peut-être à deux ou trois endroits. Actes 26, 15, premièrement. Actes, chapitre 25 et verset 15, pour commencer. Puis nous voulons lire Acte 23, 11, et vous pouvez ajouter à ceci si vous le désirez, je n'aurai probablement pas le temps de le lire, Philippiens 1, 20. Tout cela est dans la même ligne et utilise les mêmes mots. Eh bien, dans le livre des Actes 26, 15, nous y lisons ceci. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Également dans Actes 23 et le verset 11.
And the 11th verse, again.
La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Puisse Dieu ajouter ses saintes bénédictions à la lecture de cette sainte parole pleine de grâce que nous avons devant nous. J'ai entendu un homme parler ou enseigner il n'y a pas longtemps. Il a utilisé le mot absolu. Et j'ai pensé, c'est un très bon mot, et je l'ai entendu utiliser si souvent, absolument. J'ai consulté le dictionnaire Webster. D'après Webster, cela signifie parfait en soi, illimité dans sa puissance, principalement un point de référence final, et ce point de référence final, c'est un Amen, c'est tout, un absolu. C'est illimité en puissance.
Unlimited in power.
Le mot absolu.
Absolute.
C'est parfait en soi. Tout est là. Cela règle la question. Et j'ai pensé, c'est une chose glorieuse. C'est un mot merveilleux. Or, un mot, c'est une pensée exprimée. Premièrement, ce doit être une pensée, puis cela devient un mot, parce que vous ne prononcez pas de mot sans y avoir pensé. Quand nous parlons en langue, nous n'avons aucune pensée. C'est Dieu prenant les pensées, c'est la pensée de Dieu utilisant nos lèvres. Nous ne pensons pas ou vous ne savez pas ce que vous dites, mais quand vous parlez en langue, c'est un parler inspiré. Quand vous interprétez, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Vous le dites simplement, c'est tout. Voyez-vous? C'est Dieu. Et lorsque vous prophétisez, vous n'utilisez pas vos propres pensées, c'est Dieu. Parce que vous dites des choses que vous ne penseriez pas dire ordinairement, voyez-vous? Mais le mot absolu indique quelque chose de définitif. C'est pourquoi je pense que chacun devrait avoir un point de référence final. Et derrière toute grande réalisation, il y a un absolu. Peu importe ce que c'était. Il y avait un absolu derrière ça. Et toute personne qui veut réaliser quelque chose doit avoir premièrement l'absolu. Et c'est l'ultime retour au point de départ, en passant par ceci et cela, et encore cela, jusqu'à ce que vous arriviez à cet absolu, ou l'amen, ou le point de référence final de ce que vous... En d'autres termes, vous devez avoir quelque chose auquel vous rattachez. C'est le poteau d'attache final de toute réalisation. Il se trouve quelque part. Cela peut serpenter à travers bien des choses différentes jusqu'à ce que cela arrive à ce poteau d'attache. Mais là se trouve l'amen pour le tout. Il doit y avoir une telle chose. Vous ne pouvez pas continuer à travers la vie sans en avoir un. Lorsque vous vous êtes marié, vous avez dû faire un retour en arrière dans votre pensée jusqu'à ce que vous atteigniez ce poteau d'attache. Et ce devait être l'amour pour votre femme ou votre mari. Eh bien, peut-être qu'elle n'est pas aussi jolie que la femme de John, ou eh bien, elle ne ceci ou cela, mais il y a quelque chose en elle qui vous frappe. Vous dites, il se peut qu'elle ne soit pas aussi jolie que l'autre, ou il se peut qu'il ne soit pas aussi beau que l'autre, mais il doit y avoir un absolu là qui fait que cette personne est différente. Et c'est à cela que vous vous accrochez. Et si cela n'est pas là, vous feriez mieux de ne pas vous marier. Il n'y a pas ce poteau d'attache, cet absolu. Nous pouvons penser à beaucoup qui avaient des absolus dans la Bible. Oh, nous pourrions parcourir cette Bible d'un bout à l'autre et être encore ici dans 2 semaines sans même en avoir touché la surface, rien qu'en pensant aux absolus dans la Bible. Par exemple, laissez-moi juste en citer un ou deux brièvement. Regardez Job. Il avait un absolu. Tout est allé mal pour cet homme qui était un homme juste. Nous n'oserions pas dire qu'il n'était pas juste parce que Dieu a dit qu'il l'était. Il n'y avait sur la terre personne de semblable à Job. Il était parfait aux yeux de Dieu et il le savait parce qu'il avait un point de référence final. Il avait un absolu. Quand tout semblait être contre lui et que la maladie s'est déclarée, ses amis ont peut-être dit... Maintenant, ça y est, Job, cela prouve que tu es en train de pécher. Tu as tort. Et alors, les évêques sont venus. On les a appelés les consolateurs de Job. Et plutôt que de le réconforter, ils n'ont rien vu d'autre que le péché dans sa vie, parce que Dieu avait traité avec lui de cette manière. Et ses enfants furent tués, et ses biens furent brûlés. Tout est allé de travers, et même sa vie était en danger. Il était assis sur la cendre, recouvert d'ulcères depuis le sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Et même sa douce et charmante compagne, la mère de ses enfants, lui a dit, « Tu devrais maudire Dieu et mourir. » Mais en face de tout cela, Job avait un absolu. Oh, en période de maladie. Si nous pouvions seulement nous attacher à cet absolu. Job savait qu'il avait exécuté l'ordre de Jéhovah et il avait foi en ce qu'il avait fait parce que Jéhovah l'avait exigé. Si nous pouvions simplement faire cela. Jéhovah exigeait un holocauste pour son péché. Et Job, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses enfants, avait offert un holocauste. Et c'était tout ce que Dieu exigeait. Oh, vous direz peut-être, je souhaiterais que ce soit tout ce qu'il exige aujourd'hui. C'est encore moins que ça. Simplement la foi dans sa parole. Vous, si vous faites de sa parole votre absolu, vous pouvez, toute promesse divine dans la Bible, vous pouvez y attacher votre âme. Peu importe combien les vagues vous fouettent, vous restez attaché, votre absolu. Et il s'y est cramponné. Et quand ses consolateurs ont dit, « Tu as péché », il savait qu'il ne l'avait pas fait. Il était juste parce qu'il avait exécuté l'ordre de Jéhovah. Et quand que l'homme est venu en disant, tes enfants sont morts, un autre est entré en disant, tes chameaux sont entièrement consumés, un feu est descendu du ciel. Regardez quel argument ces incommodeurs avaient. Tu vois, le feu est descendu du ciel. Eh bien, Job, cela prouve. Cela ne prouve rien. Eh bien, il n'aurait pas frappé tes enfants, Job, qui est un homme juste. Mais Job a dit, « Je sais que j'ai fait ce qui est juste. » Il a continué à tenir bon. Il avait quelque chose qu'il pouvait enfoncer. C'est cela. Il avait accepté cela. Il avait fait exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. Et il en était absolument certain. Très bien. Et alors, quand il en est arrivé au point où on voit que cet absolu a tenu, alors finalement, il a commencé à sentir la corde se tendre, alors qu'avant, elle flottait librement. Mais elle a commencé à se tendre, et l'Esprit est venu sur lui. Il s'est levé, étant prophète. Et il a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. » Voyez-vous, il avait resserré ses liens avec son absolu. Il était entré en contact. Il savait qu'il avait fait ce qui était juste. Et un jour, il a dû se tirer jusqu'à lui. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que dans les derniers jours, il se tiendra sur cette terre. Même quand les vers auront détruit ce corps, mais de ma chair, je verrai Dieu. Il sut alors. Son absolu fut ancré. Abraham avait un absolu. Il venait de Babylone, de la tour. Il était dans le pays de Shinar. C'est là qu'il séjournait avec son père. Et il était peut-être fermier. Mais un jour, quelque part, tout au fond de la jungle, alors que peut-être il ramassait des baies ou qu'il s'apprêtait à tuer un animal pour avoir de la viande à manger, quelque part, par là-bas, Dieu lui a parlé. Alors qu'il avait 75 ans, il avait, lui et sa femme, Sarah, elle en avait 65 et il n'avait pas d'enfant. Il était sans enfant. Alors, Dieu lui a dit, tu vas avoir un enfant par Sarah, mais pour cela, tu devras te séparer. Les promesses de Dieu dépendent toujours de conditions. Vous devez absolument, peu importe combien vous êtes fondamentaliste avec la promesse, il y a toujours des conditions. Comme nous pourrions nous arrêter ici et parcourir l'Écriture d'un bout à l'autre pendant des heures, Et nous verrions que la condition est ce qui importe. Vous pouvez être aussi fondamentaliste que vous le voulez, mais c'est sous condition d'après la promesse, la prédestination, etc. Remarquez. Eh bien, Abraham, il crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, quelle chose horrible ce serait d'affronter un monde civilisé, lui, un homme de 75 ans avec une femme de 65 ans. Ils avaient vécu ensemble depuis qu'ils étaient jeunes parce qu'elle était sa demi-sœur. Et maintenant, avoir par elle un bébé, mais il y avait un absolu. Rien n'allait l'ébranler. Et quand ce n'est pas arrivé le premier mois, son absolu a tenu, parce qu'il savait qu'il avait parlé à Dieu. Le second mois, la seconde année, 10 ans et 25 ans plus tard, quand il avait 100 ans et Sarah en avait 90, son absolu tenait toujours bon. Et la Bible dit, dans sa notice biographique fut écrite après sa mort, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. Pourquoi? Avez-vous déjà pensé pourquoi? Il était absolument certain. Et la seule chose qu'il devait faire, c'était de se séparer de son peuple. Et Dieu ne l'a jamais béni avant qu'il l'ait fait. Il a pris son papa, et le papa est mort. Il a pris Lot. Et quand, après que Lot se soit séparé d'Abraham, alors Dieu est venu vers lui. Il lui a dit, « Maintenant, marche à travers le pays. » L'obéissance, la promesse, sous certaines conditions, va toujours avec Dieu et sa parole. Maintenant, regardez. Prenons Moïse. Moïse, le prophète serviteur fugitif, à qui Dieu avait donné l'éducation et l'instruction au palais de Pharaon. Et Moïse est sorti avec sa formation théologique et il a tué le premier homme. C'est alors que, dans son premier petit déboire, Moïse eut une peur bleue. Pourquoi? Il n'avait point d'absolu. Il n'avait que le témoignage de sa mère concernant sa naissance. Il était un étrange enfant. Il avait la parole de sa mère à ce sujet. Il avait les rouleaux où David avait peut-être en papier quelque part qu'il avait écrit et transporté avec eux, où Dieu allait visiter ses enfants. Il savait que c'était le temps, comme nous le savons maintenant. Nous savons que quelque chose est sur le point d'arriver. Eh bien, Moïse savait que c'était le temps. Il savait qu'il était choisi pour cela, mais il n'avait pas d'absolu, voyez-vous. Et un jour, derrière le désert, quand il avait perdu la vision, Dieu lui est apparu dans un buisson ardent. Et il lui a dit, « Moïse, j'ai vu les afflictions de mon peuple. J'ai entendu leurs gémissements et leurs cris que leur font pousser ces inspecteurs lorsqu'ils les punissent. Et je me suis souvenu de ma promesse. Je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, pars en Égypte. » Oh là là! Moïse s'est plaint en disant, « Je ne parle pas très bien, mon élocution n'est pas très bonne, ils ne me croiront pas. » Il a dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Il a répondu, « Une verge. » Il a dit, « Jette-la par terre. » Elle devint un serpent. Il lui a dit, « Saisis-le par la queue. » Il redevient une verge. Il lui donnait l'assurance, une confirmation. Quand Dieu donne un absolu, il donne toujours une confirmation de cet absolu. Alors, Moïse, une fois qu'il s'est retrouvé là-bas, il a jeté par terre sa verge devant les magiciens et Pharaon, et les magiciens sont venus et ont aussi jeté leur verge par terre. Moïse n'est pas parti en courant en disant, « Oh, eh bien, je me suis trompé. Ce n'était qu'un piètre tour de magicien et peut-être que je me suis trompé. » Mais il savait, il était certain qu'il avait rencontré Dieu. Il s'est tenu tranquille. Disons qu'il avait fait exactement ce que Dieu lui avait dit de faire, comme Job avait fait exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. Moïse avait suivi ses commandements. Alors, restez tranquille et observez la gloire de Dieu. Moïse était attaché à son absolu, à sa commission. Et il est resté tranquille. Et à ce moment-là, son serpent a avalé tous les autres serpents, voyez-vous. Il était attaché à cet absolu. Dieu a dit, « Quand tu auras délivré ses enfants, vous m'adorerez à nouveau sur cette montagne. » Regardez comme l'ennemi essaiera par tous les moyens possibles de vous éloigner de cet absolu. Alors qu'ils commençaient juste à sortir d'Égypte, ils se sont trouvés acculés dans l'isthme de la mer Rouge, avec des montagnes de chaque côté. Ils arrivèrent par une vallée et se trouvèrent devant la mer Rouge. Il n'y avait pas moyen d'échapper en passant par-dessus les collines, ni aucun moyen d'échapper en passant par ici. Et l'armée de Pharaon arrivait par ici. Alors voilà un endroit, vous voyez comment le diable vous amène dans un endroit où vous ne savez pas comment, ce qu'il faut faire. Mais rappelez-vous, si vous êtes attaché à cet absolu, c'est bon. Moïse savait que Dieu lui avait promis que vous m'adorerez sur cette montagne quand tu les auras fait sortir. Et je suis descendu pour les délivrer par ta main et les placer dans cet autre pays. Il est resté bien avec cela et Dieu a envoyé un vent d'Orient et a soufflé les eaux qui recouvraient le fond de la mer et ils traversèrent à pied sec. Un absolu. Combien nous pourrions parcourir les Écritures? Daniel, son absolu. Shadrach, Meshach et Abednego, leur absolu. David, son absolu. Tous, un absolu. Paul en avait aussi un, celui que nous voyons dans notre lecture. Il avait un appel centré sur Christ et c'était son absolu. C'est la raison pour laquelle il n'avait pas peur de ce qu'Agrippa dirait. Ce tenant-là, et Agrippa était juste, comme nous le savons. Et ainsi, quand il se tenait devant ses rois et d'autres, Dieu lui avait déjà dit qu'il s'y trouverait. Il avait donc un absolu. Il raconta exactement la vision céleste. Il dit, je ne l'ai pas déshonoré. Je ne l'ai pas sous-estimé. Je ne me suis pas mal conduit. Mais il y est resté fidèle. Il n'y a pas désobéi. Il a exécuté cela à la minute près. Car c'était un absolu. Et toute vie centrée sur Christ, c'est votre absolu. Eh bien, depuis qu'il l'avait rencontré face à face sur le chemin de Damas, cela gardait une grande signification pour Paul. Maintenant, rappelez-vous qu'il était un érudit auparavant. Il était un homme très fort dans les Écritures. Mais il n'avait pas de poteau d'attache, si ce n'est le soutien du Sanhédrin et un diplôme venant d'un grand docteur. Il était éminent dans sa branche, mais il était chancelant. Tout ce qu'il avait, c'est que son absolu serait aussi fort que l'était son organisation. C'est là toute la force qu'il pouvait avoir. Et dans son travail, il était fidèle à cela. Il prenait des chrétiens, les liait et causait des ravages dans leurs rangs. Il a même lapidé Étienne. Je pense que plus tard dans sa vie, la raison pour laquelle il est allé à Jérusalem alors que le prophète lui avait dit, « N'y va pas, Paul, car des chaînes et la prison t'attendent. » Et Paul a dit, « Je le sais. » Mais je ne vais pas seulement à Jérusalem pour y servir de témoin, mais j'y vais en étant prêt à mourir pour Jésus-Christ. Car il savait ce qu'il avait fait et son ambition, c'était de sceller son témoignage avec son propre sang, mourir en tant que martyr parce qu'il avait tué l'un des martyrs de Dieu. Et maintenant, le voici en route pour Damas avec toute son instruction. Il avait appris au pied de Gamaliel, ce grand docteur. Il avait été bien enseigné dans toute la religion juive. Mais malgré tout cela, il était peu solide. Il n'était pas apte à faire certaines choses. Et tout à coup, il y eut une lumière et un grondement, peut-être sous forme de tonnerre. Il fut frappé et tomba par terre. Et quand il leva les yeux, il y avait une lumière brillante qui l'aveugla. Quelle étrange chose! Personne d'autre n'a vu la lumière, si ce n'est Saul. C'était si réel pour lui que cela l'a aveuglé. Il ne pouvait pas voir, il devint totalement aveugle avec cette colonne de feu qui resplendissait juste devant son visage. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il dit, « Seigneur, qui es-tu? » Il dit, « Je suis Jésus. » Il était difficile de régimber contre ces aiguillons. « Lève-toi maintenant et va à Damas, et là, on t'enverra quelqu'un. » Et alors, quand il s'est relevé de là, il y avait quelqu'un, un prophète, là-bas dans la ville, qui eut une vision alors qu'il était en prière, et il est venu, Ananias, vint trouver Saul, lui imposa les mains, et il fut guéri par la guérison divine. Il s'est alors relevé, il fut baptisé, ses péchés furent lavés, il invoqua le nom du Seigneur, et alors il eut un absolu. Il ne fut plus jamais le même après cela. Il est allé directement d'église en église, de lieu en lieu, pour essayer de bâtir ce qu'il avait essayé de démolir. Combien la nation, combien le monde chrétien ce matin a besoin de ce type absolu? Ceux qui, au moyen de credos, de traditions, ont essayé, et de doctrines humaines, ont essayé de contester à la parole de Dieu la faculté d'être la même hier, aujourd'hui et pour toujours, ont besoin d'un absolu, d'une expérience sur un chemin de Damas où ils rencontrent le Dieu vivant qui peut guérir les malades, et ressusciter les morts et chasser les démons. Un authentique absolu. Paul savait que quelque chose était arrivé. Personne ne pouvait le lui enlever. Plus rien d'autre n'avait d'importance. Il était attaché et c'était réglé. Peu importe ce qui allait arriver, il savait qu'il était attaché. Une vie centrée sur Christ. Oh, la vie qu'il avait vécue était une vie différente. Maintenant, rappelez-vous, il avait été un homme religieux. Et pour certains de vous, ce matin, et je sais que vous réalisez que cette bande qui est en train de s'enregistrer sera jouée dans toutes les nations sous le ciel, pratiquement dans le monde entier. Et certains de vous qui êtes ici présents, et certains de vous là où les bandes seront jouées dans les autres nations par un interprète donnant cela aux tribus d'Afrique là-bas, chez les Hottentots et tout autour. Et vous, leaders religieux, qui avait simplement reçu un enseignement de la Bible. Vous l'avez reçu à partir d'un point de vue historique et vous êtes peut-être capable d'expliquer toutes ces choses. Mais si vous n'avez pas un absolu, si vous n'avez pas une expérience, et si cette expérience que vous prétendez avoir vous fait nier que chaque mot de ceci est tout aussi vrai pour l'Église aujourd'hui que jadis, et si vous vous confiez dans votre diplôme en lettres ou autre, et que vous pouvez avoir, si vous vous confiez dans les pensées de votre organisation qui pourrait lire le temps des miracles est passé, nous n'avons point de guérison divine, et le baptême du Saint-Esprit, comme ils l'ont reçu le jour de la Pentecôte, n'est pas pour les gens d'aujourd'hui. Si c'est tout ce que vous avez, mon précieux frère, ma soeur, vous avez besoin d'une expérience sur le chemin de Damas. Vous avez besoin de rencontrer ce Dieu vivant où vous, pas seulement une pensée mythique dans votre esprit, pas un frisson ou une sorte de sensation, mais être enseigné et avoir l'expérience d'un absolument authentique. Le même Jésus qui marchait en Galilée est vivant aujourd'hui et vivant à jamais. Et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Un absolu qui fait que vous n'avez pas besoin de prendre ce que quelqu'un d'autre a dit. Vous le savez vous-même. Ce n'est pas une quelconque sensation. Et si la sensation que vous avez eue sur quelqu'un, c'était peut-être une vraie sensation biblique, et que quelqu'un d'autre essaie de vous convaincre du contraire, disant que ces choses étaient pour un autre temps, faites attention, c'est vrai, faites attention. Mais il y a un moyen de le savoir. Testez cela avec la parole. C'est le plan. Si la maison est construite contrairement au plan, l'entrepreneur devra la démolir et la reconstruire. Elle doit être conforme au plan. Alors, peut-être votre expérience, si quelque chose en vous vous dit que cette Bible n'est pas vraie, que cette puissance de Dieu, les apôtres, les prophètes, les enseignants, les pasteurs et les dons de l'Esprit ne sont pas les mêmes que lorsqu'ils coulaient à travers ces apôtres à la Pentecôte, il y a quelque chose qui ne va pas avec votre absolu. Il doit être attaché à un credo dénominationnel plutôt qu'à la Bible de Dieu, car il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira jamais. Regardez bien ce qui est votre absolu. Vous pouvez être absolument certain que vous avez une bonne communion avec le pasteur. Vous pouvez être absolument certain que vous avez une bonne communion avec le surveillant de district. Et c'est peut-être absolument certain que vous avez une bonne communion avec l'évêque ou quelque homme important de votre église. Mais si vous n'êtes pas, si votre absolu n'est pas Jésus-Christ, car sur cette pierre, je placerai mon absolu. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre lui. Une révélation spirituelle de qui il est et le connaître lui, très bien. Oh, maintenant, quand vous devenez comme Paul et que vous avez le même absolu que lui une vie centrée sur Christ est sur une vie différente de celle que vous avez eue précédemment. Il se peut que vous aviez une vie très religieuse. Oh, j'ai entendu des gens dire, mais ils sont très religieux. Cela n'a rien à voir du tout. J'ai vu bien des religions, des gens très fervents, beaucoup plus sincères que ce que professent les chrétiens d'aujourd'hui. Quand une mère peut prendre son petit bébé noir, tout grassouillet, à peu près grand comme ça, et le jeter dans la gueule d'un crocodile par amour pour son Dieu, je me demande combien sincère est le christianisme. Quand un homme peut se faire souffrir pareillement, fixant un millier de crochets dans sa chair comme cela, auxquels sont suspendues des boules remplies d'eau, le forçant à rester par terre comme ceci, et marcher à travers une bande de feu depuis ici jusqu'au bout de ce tabernacle, en passant plusieurs fois alors que se chauffer à blanc et attiser comme cela, en signe de sacrifice pour son Dieu, une idole là avec des yeux en rubis, je me demande où en est le christianisme. Ne voyez donc pas que la sincérité n'est pas tout. La sincérité est une bonne si elle est placée sur la chose juste. Comme un docteur qui vous donne un médicament, il se peut qu'il vous donne de l'arsenic sincèrement. Il se peut qu'il vous donne de l'acide sulfurique sincèrement. Il se peut que votre ordonnance soit mal rédigée. Il se peut que vous preniez cela en toute sincérité. Mais cela ne vous sauvera pas la vie, voyez-vous? Non, monsieur, vous devez savoir ce que vous faites. Et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, peu m'importe ce que c'est et depuis combien de temps cela existe, c'est quand même faux. Pierre leur a donné une prescription éternelle le jour de la Pentecôte. Il a dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car cette prescription est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est juste, c'est une prescription éternelle. Eh bien, un pharmacien charlatan pourrait s'emparer de cela et vous tuer, voyez-vous, certainement. Vous savez, il y a une certaine quantité de poison dans une ordonnance pour empoisonner le germe. Et le docteur sait exactement quelle quantité votre corps peut supporter. S'il met trop de poison, cela vous tuerait. Si vous n'en avez pas suffisamment, alors quel bien cela ferait-il? Cela ne vous servira à rien de prendre le médicament. Il sait ce que votre corps peut supporter. Eh bien, c'est ainsi avec la prescription de Dieu. Peu importe que quelqu'un dise cela, que ça doit être fait comme ceci ou comme cela, ne le croyez surtout pas. Quand vous suivez la parole exactement à la lettre, c'est bon, c'est juste. Tenez-vous-en à cela. Maintenant, nous avons ceux qui disent que vous devez être aspergé. On a ceux qui disent que vous devez utiliser les titres de Père, Fils, Saint-Esprit. De telles choses n'existent pas dans la Bible. Il n'y a pas un seul endroit dans la Bible où quelqu'un a été baptisé autrement que dans le nom de Jésus-Christ. C'est un dogme qui a été ajouté dans l'Église catholique romaine et qui a été perpétué par des traditions. Nous allons toucher cela ce soir. Mais remarquez, parmi tout cela, la prescription reste valable. Voilà pourquoi nous avons tellement d'enfants malades. C'est parce qu'ils n'écoutent pas ce que le docteur a dit. L'absolu, quand vous vous êtes attaché à cela, c'est bon. C'est la parole de Dieu. Elle ne peut pas faillir. Une vie centrée sur Christ, très religieuse, mais ce n'est pas centré sur Christ. Tellement parmi nous ont cela aujourd'hui. Et quand vous obtenez cette vie centrée sur Christ, cela vous fait faire des choses que vous ne feriez pas ordinairement. Cela vous fait agir différemment que vous ne le feriez ordinairement. Je ne parle pas d'agir stupidement. Je veux dire agir dans l'esprit. Quelque chose qui est réel, quelque chose qui est authentique. Quand vous voyez quelqu'un agir stupidement, vous savez qu'il ne fait que se donner un air. Il ne fait qu'essayer d'imiter la chose authentique. Quand vous voyez un faux dollar, souvenez-vous qu'il a été copié sur un vrai. Voyez-vous, quand vous voyez un faux, c'est absolument l'ombre secondaire de quelque chose qui est réel. C'est quelque chose qui a été copié sur quelque chose d'authentique. Remarquez, cela vous fait faire des choses que vous ne feriez pas ordinairement. Oh, c'est quelque chose. Vous êtes certain, vous êtes tout à fait certain de cela. Quand vous obtenez cet absolu, vous en êtes tout à fait sûr. Vous ne prenez pas l'expérience de quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle le christianisme est devenu comme de petits-enfants dans la Bible et pas, excusez-moi, de petits-enfants à l'école. Ils essaient de se copier l'un l'autre et si ce gars se trompe, l'ensemble est faux. Voyez-vous, vous avez induit tout ce groupe en erreur. Oh là là, ne copiez pas, rencontrez-le vous-même. Un de mes bons amis qui se tient là au fond est le fils d'un de mes copains, un ami de toujours, le petit Jim Poole. Eh bien, son papa et moi, nous avons grandi ensemble à l'école et oh, quel brave garçon! Le petit Jim et moi, nous prions constamment pour que le grand Jim devienne chrétien, un vrai croyant. Le petit Jim et moi, nous étions en train de parler hier sur le fait que nous avions trouvé Dieu dans les bois et que nous l'avions vu dans la nature. C'est là que vous le trouvez, parce qu'il est un créateur et il est dans sa création. Et je me rappelle que Jim et moi, nous voulions aller chasser, et quand la nuit arrivait, eh bien, nous prenions nos vélos et nous passions sur cette rue ici. Nous avions une peur bleue de passer près du cimetière une fois la nuit tombée, et nous allions nous chercher une crème glacée. Et Jim aimait jouer au billard. Eh bien, nous étions des garçons de 10, 12 ou 14 ans à ce moment-là. Et alors, Jim aimait s'asseoir et lire des histoires de chasse et de chasse au piège. Et moi, je l'essayais et je rêvais. Et maintenant, certains des garçons peuvent me voir. Et je voyais une toute petite cabane quelque part et je pensais, dis donc, ce serait bien d'avoir une cabane comme ça dans les montagnes. Et j'ai toujours rêvé qu'un jour, j'aurais ma petite cabane dans les montagnes, une meute de chiens et des fusils. J'ai toujours pensé, si je pouvais posséder une 30-30, une fois, j'ai pensé, comment au monde pourrais-je une fois posséder une petite fusil 30-30? Et l'autre jour, je me tenais là et je regardais mon mur et en voyant certains des meilleurs fusils qu'on peut se procurer, j'ai pensé, grâce étonnante. J'ai pensé, je vais m'entraîner au tir et tirer bien. Alors peut-être qu'une fois, je pourrais faire un voyage dans les montagnes et peut-être qu'un bon chasseur me prendra avec lui simplement pour lui servir de, parce qu'il voudrait protéger sa vie et peut-être d'un ours ou en train de charger. Un homme riche qui ne se sente pas tout à fait sûr pourrait me prendre avec lui simplement pour l'accompagner et lui servir de garde du corps. Peut-être qu'un jour, je pourrais chasser en Afrique en tant que garde du corps. Si je pouvais simplement m'entraîner, c'est la seule chose que je puisse faire. C'est m'entraîner pour avoir toujours garanti mes tirs. Et je pensais, oh, Dieu, pense un peu. Tu m'as laissé chasser dans le monde entier. Comme c'est merveilleux. Jim avait l'habitude de s'asseoir et de lire. Et j'ai dit, Jim, il a dit, Jim, lire ces choses. J'ai dit, Jim, c'est ce que quelqu'un d'autre a fait. Je veux le faire moi-même. Je veux en faire l'expérience. Quand je suis venu à Christ, je ne pouvais pas prendre l'expérience de quelqu'un d'autre. Je voulais la faire moi-même. Ça me rappelle lorsque j'ai lu The Lone Star Ranger de Zane Grey. J'ai abîmé deux ou trois balais à maman en galopant à travers la maison sur cette sorte de cheval de bois. J'ai lu cette histoire du shérif solitaire et la manière dont il a rétabli l'ordre dans la région de Big Bend. J'ai ensuite lu le roman d'Edgar Rice Burroughs de Tarzan et les singes. Maman avait une vieille descente de lit en fourrure, ce que devait être une sorte de peau de phoque que Mme Wetton lui avait donnée suite à l'incendie. Et elle était par terre dans sa chambre. J'ai amené ce tapis dehors. Maman ne sait pas que le vent ne l'a pas emporté. Et je l'ai pris dehors, je l'ai découpé, je m'en suis fait un costume de Tarzan. Et je me suis installé dans l'arbre. Je vivais la moitié du temps dans un arbre habillé en Tarzan. Parce que j'avais vu ce qu'il avait fait et je voulais le faire aussi. Mais un jour, par la grâce de Dieu, je me suis emparé du véritable livre, la Bible. Mon chant et mon histoire ont été être comme Jésus sur terre. Je languis d'être comme lui. Je ne veux pas être évêque ou quelqu'un d'important dans l'Église, un pape ou un prêtre. Je veux être comme Jésus, un absolu. Vous rend différent. Il y a quelque chose à ce sujet. Lorsque vous lisez sa parole, il y a quelque chose dans votre cœur qui fait que vous languissez d'être comme lui. Vous êtes certain. C'est comme l'absolu pour le Christ, l'absolu pour le chrétien. C'est comme l'ancre du bateau. Oui, vous devez avoir un absolu. Et si Christ est votre absolu, c'est comme l'ancre qui fait que lorsque la mer est très agitée et que le bateau est sur le point de sombrer, et vous, votre unique espoir, c'est de jeter l'ancre. Et alors, si le bateau est ballotté, voyez-vous, l'ancre le retiendra. Vous savez, nous avons un chant. J'ai oublié le nom de l'auteur maintenant, mais c'est mon ancre tient. Comme ce petit garçon, comme nous y avons souvent pensé, qui jouait avec son cerf-volant, vous ne pouvez rien voir, mais il tenait la ficelle. Et un homme a passé par là et lui a dit, « Qu'es-tu en train de faire, fiston? » Il a répondu, « Je fais voler mon cerf-volant. » Il lui a dit, « Qu'as-tu dans la main? » Il a répondu, « La ficelle. » Il a dit, « Où est le cerf-volant? » « Je ne le vois pas. » »« Eh bien, comment sais-tu que tu es en train de faire voler un cerf-volant? » Il a répondu, « Je peux le sentir. » Ça tire, voyez-vous. Au bout de cette ficelle, il y avait un absolu. D'après sa manière enfantine de voir les choses, ce cerf-volant était un son absolu. Il fait donc dire qu'il faisait voler un cerf-volant, bien qu'il ne puisse pas le voir, mais il tenait quelque chose qui le tenait. Il en est ainsi pour un homme qui est né de nouveau du Saint-Esprit. Il s'est emparé de quelque chose qui a une ancre là-bas, et la tempête ne l'ébranle pas. Il sait que tout va bien pour lui. Il est ancré. Bon. Maintenant, si nous sommes dans notre petite barque flottant sur l'océan solennel de la vie, comme le grand poète l'a dit, la vie n'est pas un rêve vide et l'âme qui dort est morte et les choses ne sont pas ce qu'elles semblent. La vie est réelle et la vie est ardente et la tombe n'est pas son but, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Cela n'a pas été dit de l'âme. Oh, je trouve cela si joli. Maintenant, Longfellow a écrit ce psaume de la vie, voyez-vous? Naviguant sur l'océan solennel de la vie, un malheureux frère naufragé, voyant cela, reprendra courage. Voyez-vous? Maintenant, nous avons embarqué sur le bateau qui navigue sur l'océan solennel de la vie. Christ pour le bateau, pris dans les tempêtes du temps. Quand les tempêtes deviennent fortes et que cela tangue, je suis content d'avoir une ancre qui tient à l'intérieur du voile là-bas, quelque part. La mort elle-même ne peut pas vous en séparer. Vous êtes attaché à votre absolu. Christ est notre ancre. Qu'est-il? Il est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Alors quand nous savons que nos actions sont exactement en accord avec la parole, nous savons que notre enseignement est parfaitement avec la parole, n'ajoutant rien, ne retranchant rien, simplement la parole, et que nous voyons les mêmes résultats que d'autres qui étaient ancrés à la même parole, ont eu, apparaissent dans notre vie, alors votre ancre tient. La vie de Christ se reproduisant à travers vous, presque d'une manière incarnée, comme elle était en Christ, parce que c'était Dieu en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et vous voyez Dieu en vous, gardant le même équilibre dans la parole, exactement comme Jésus l'a fait, et vous voyez sa vie. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Celui qui croit, pas celui qui fait semblant de croire, celui qui pense qu'il croit, mais celui qui croit. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Pourquoi? Il est ancré au même rocher. Qu'était le rocher? La parole. Toujours. Vous êtes ancré là. C'est votre étoile polaire. Lorsque vous êtes perdu en mer, vous savez, nous avons beaucoup d'étoiles, mais il n'y a qu'une seule étoile véritable et elle ne bouge pas. C'est l'étoile polaire parce qu'elle est centrée par rapport à la Terre. Peu importe que vous soyez derrière la Terre, dessus ou ailleurs, cette étoile polaire est toujours pareille. C'est votre étoile polaire. Maintenant, vous voyez, il y a beaucoup d'étoiles qui se déplacent. Mais si vous êtes sur la mer, eh bien, tout marin sait cela, ou tout chasseur qui parcourt les bois sait que votre étoile polaire est ce qui compte pour vous. C'est tout. Alors, c'est comme votre boussole. Votre boussole n'indiquera pas Mars ou Jupiter ou ailleurs. Elle indiquera l'étoile polaire. Pourquoi? C'est votre absolu. Oh là là. Remarquez, votre absolu. Oh, je vais dire quelque chose. Je sens que c'est en train de venir. Remarquez, je me sens très religieux en ce moment-ci parce que c'est l'assurance. Remarquez, votre boussole peut seulement indiquer l'étoile polaire. C'est le seul endroit qu'elle peut indiquer. Si c'est une véritable boussole, elle tombera sur l'étoile polaire à chaque fois, n'est-ce pas vrai? Alors, si vous avez le Saint-Esprit, il peut seulement indiquer la direction de la parole. Il n'indiquera jamais une dénomination. Il n'indiquera jamais un credo. Il n'indiquera jamais un autre endroit. Il indiquera directement la parole. J'ai envie de jubiler. Remarquez, c'est quelque chose à l'intérieur de l'homme qui palpite. Quand vous voyez votre étoile qui est placée là-bas, Jésus-Christ, la parole, et que vous voyez que l'Esprit qui est en vous ne permet pas que ça aille à droite ou à gauche. C'est le seul qui puisse. Il est venu pour prendre les choses de Dieu et pour les montrer, pour les manifester. Et Jésus a dit, il fera exactement les choses que je dis. Il vous révélera les choses qui sont à venir. Il les montrera à l'avance avant qu'elles arrivent ici, voyez-vous. Il prendra les choses qui sont à moi. Il vous les montrera. Et alors, il vous montrera les choses à venir. Jean 15. Voyons qu'il montre les choses. Il prendra les choses qui sont à Dieu. Il vous les montrera. Et il vous révélera les choses que Jésus a dites. En d'autres termes, il rendra la chose claire. Placez cela bien dans ce coin ce soir, parce que nous allons bientôt nous en servir. S'assurant, rendant la chose certaine, voyez-vous? Alors, vous savez que si votre étoile polaire, qui est la parole pour tout chrétien, tout ce qui est contraire à la parole, regardez, laissez-moi vous dire quelque chose, écoutez ceci attentivement. Ceci est la révélation divine complète de Dieu, de sa volonté et de la venue de Christ. Et tout se trouve ici, dans ce livre achevé. Et si quelque chose vous éloigne de cela, jetez cette boussole. Parce que c'est seulement un credo, c'est seulement une orgue, c'est seulement un papier que vous avez dans votre poche ou qui est suspendu dans votre chambre, encadré. C'est un credo. Homme, trouvez la boussole qui vous amène vers la parole. Amen. Remarquez bien, lorsque Paul eut cette expérience, il descendit en Égypte et en Arabie quelque part, il a étudié 3 ans. Gloire! Il devait être certain. Et quand il a vu, quand le Saint-Esprit l'a dirigé mot après mot, il a pu écrire ce livre des Hébreux pour montrer cela à ses Juifs. Certainement. Pourquoi? Il était centré. Cette boussole du Saint-Esprit l'a placée juste sur l'étoile polaire. Maintenant, si vous avez quelque chose qui vous en éloigne, vous feriez mieux de laisser ça de côté. Cela indiquera sa parole et seulement sa parole, parce que le Saint-Esprit est venu pour manifester ou pour confirmer la promesse de Dieu. Aucun credo ne le fera, aucune organisation ne le fera. Aucune puissance ou rien ne peut le faire, seulement le Saint-Esprit par la parole, et il est le germe. Maintenant, vous prenez un grain de blé, un joli grain de blé, mais il ne peut rien faire. Il est mort jusqu'à ce que le germe entre en lui. Alors, il produira de nombreux grains de blé. Et Christ est cette vie, cet absolu. Si le blé n'a pas cet absolu en lui, il ne lèvera jamais. Si ce blé n'a pas cet absolu, il est peut-être tout ce qu'il y a de plus joli à l'extérieur, mais il ne peut pas vivre parce qu'il n'y a rien en lui pour le lui permettre. Mais quand il obtient cet absolu, il peut regarder tous les critiques bien en face et dire « Je ressusciterai ». Pourquoi? Parce qu'il a l'absolu. C'est en lui. Il doit ressusciter. Et quand il, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez. C'est cet absolu. Mais si vous avez des credos et tout le reste, tu ris là-dedans, vous ne pouvez pas mélanger de l'huile et de l'eau. Vous pouvez prendre cela et le fractionner comme vous voulez. Cela ne se mélangera jamais parce qu'il s'agit de 2 produits chimiques différents. Et vous ne pouvez pas faire qu'un credo contraire à la Bible. Et la Bible se mélange entre eux. Vous ne pouvez pas faire qu'une dénomination ou une religion née libre ou un salut né libre se mélange entre eux. Parce qu'aussi certainement que Dieu traite seulement, je vais le dire quand même, Dieu n'interrompt jamais son programme. Il ne peut pas l'interrompre parce qu'il est infini. Et je réalise, vous savez, que cela atteint beaucoup de gens, voyez-vous. Mais Dieu ne peut pas interrompre son programme. Il ne peut pas faire quelque chose un jour et le changer et faire autre chose et dire qu'il s'est interrompu. Ce jour-là, Dieu ne traite pas avec des groupes d'hommes. Dieu traite avec un individu parce que l'homme a différentes idées. Sa nature est faite différemment et Dieu doit prendre cet homme, le façonner, le faire sortir de lui-même jusqu'à ce qu'il l'amène à sa nature. Et alors Dieu traite avec cette personne. Regardez à travers tous les âges, Noé et Moïse, les prophètes. Jamais 2 d'entre eux en même temps, toujours 1, à travers tous les âges. C'est pourquoi, si vous dites, le salut est dans le grand nombre des conseillers, regardez un peu, comme je l'ai prêché ici au tabernacle il n'y a pas longtemps, il y avait Achab, il y avait Josaphat, ils étaient en train de monter à Ramoth en Galiad. Vous repoussez fondamentalement, ils avaient raison, le pays leur appartenait, effectivement. Et l'ennemi, les Syriens là-bas, remplissaient le ventre de leurs enfants avec le blé que les Israélites devaient manger et qui était leur propriété donnée par Dieu. Donc, fondamentalement, cela paraissait bien. Viens avec moi, montons-y, et nous les repousserons du pays. Eh bien, cela paraît vraiment bien, fondamentalement, c'était juste. Mais il y avait des conditions. Josaphat, étant un brave homme, a dit, mais nous ne devrions pas consulter l'Éternel. Bien sûr, Achab, ce rétrograde, a dit, et bien certainement, un croyant frontalier, vous savez, il a dit, oh, certainement, j'aurais dû y penser. J'ai 400 prophètes hébreux, 400 que je nourris, dont je m'occupe. Ce sont les meilleurs du pays. Nous allons les faire venir. Et tous, d'un commun accord, ont dit, monte, l'Éternel est avec toi. Fondamentalement, ils avaient raison, mais ils n'avaient pas saisi cet absolu. Alors, quand il a dit, n'y en a-t-il pas encore un? Il a dit, oui, il y en a un, mais je le déteste. Il a dit, toujours du mal de moi. Il dit toujours, comment pouvait-il prophétiser du bien alors que la parole entière, Élie, qui l'avait précédé, avait dit à Achab, les chiens lécheront ton sang. Maintenant, comment ce prophète confirmé pouvait-il dire que quelque chose qui n'était pas la volonté de Dieu? Il avait aussi dit que les chiens mangeraient Jézabel et que son cadavre serait comme du fumier sur la face des champs, de sorte qu'on ne pourrait pas dire « c'est Jézabel ». Avec une malédiction comme celle-là sur un homme, comment quelqu'un pouvait-il bénir? C'est ainsi aujourd'hui. Comment un homme peut-il bénir ces choses qui éloignent tout le temps les gens de Dieu? Il n'y a qu'une chose à faire. Il n'y a qu'une chose à faire si vous devez rester seul, maudissez la chose au nom du Seigneur et restez avec cela. Quand vous êtes absolument, vous me direz, frère Branham, vous amenez les gens à vous détester. Dieu m'aimera, c'est mon absolu. Vous ne pouvez pas appuyer sur un bras de la chair, vous devez vous appuyer sur la parole, ce que Dieu a dit. Comment Miché savait-il qu'il avait raison, qu'il a attendu, il y a eu une vision, il avait aussi une vision, mais la vision ne se comparait pas avec la parole, et aujourd'hui c'est pareil. Miché a comparé sa vision à la parole, et alors il a vu que lui et la parole étaient ensemble. Aujourd'hui, si votre vision est contraire à la parole, laissez-la tranquille, parce que c'est un faux absolu. L'absolu de Miché était exactement avec la parole. Il pouvait donc se tenir là et dire ce qu'il a dit et croire cela. Quand ils le frappèrent sur la bouche en disant, par quel chemin l'Esprit de Dieu est-il parti? Il a répondu, tu le verras quand tu iras de chambre en chambre, c'est juste. Il a dit, quand je reviendrai en paix, mettez cet homme en prison et quand je reviendrai en paix, dit Achab, je m'occuperai de cet homme. Oh, maintenant, Miché, que dis-tu de ça? Ta terre sera tranchée quand il reviendra. Miché s'est tenu là, bien ferme, comme Étienne. Amen. Aussi près que l'était mon Seigneur lorsqu'il alla à la croix, aussi à l'aise que l'était Daniel lorsqu'il entrait dans la fosse aux lions, ou que Shadrach, Meshach et Abednego lorsqu'il entrait dans la fournaise, absolument, il s'est tenu là et il a dit, « Si jamais tu reviens! » Pourquoi? Il était absolument sûr. « Si jamais tu reviens! » Dieu ne m'a pas parlé, alors coupe-moi la tête. Il avait un absolu. Il savait que sa boussole qu'il avait conduit vers cette vision était alignée exactement sur l'étoile polaire. Oui, monsieur. Son ancre a tenu bon. Oui, la parole et elle seule. Si votre absolu, si vous avez un absolu dans votre vie, il y avait une époque, vous savez, où l'étiquette avait son absolu. Je ne peux pas penser au nom de cette femme, mais la nation entière avait confiance dans ce que disait cette femme. J'ai oublié son nom, j'ai inscrit une note ici. Je n'arrivais pas à me rappeler le nom de cette femme, qui c'était. Mais tenez, il y a quelques années, on devait, cette femme, ce qu'elle disait, si elle disait de tenir le couteau à la main gauche, c'était ainsi, c'était l'absolu. Elle était la réponse à toutes ces questions. Et si vous teniez la fourchette à la main gauche, alors vous étiez absolument dans l'erreur. Comment s'appelait-elle? Ah oui, c'est cela, certainement. Oui, c'est bien elle. Maintenant, vous étiez absolument, elle était l'absolu de l'étiquette. Cela devait être ainsi. Oh, nous trouvons bien des choses comme cela. Mais nous voyons maintenant que cela a disparu. Mangez comme vous voulez. Oui, très bien. Mais c'était l'absolu de l'étiquette. Vous deviez le faire ainsi. Il y avait une époque où Adolf Hitler était l'absolu de l'Allemagne. Quoi qu'il dise, quand il disait « sauter », il sautait. Quand il disait « tuer », il tuait. Des millions de Juifs, il faisait un signe de la tête. Vous voyez ce qui est arrivé à cette sorte d'absolu? Cela ressemblait à de la puissance, mais c'était contraire à la parole. Comment savez-vous que c'était contraire à la parole? Dieu a dit, n'est-ce pas Balaam qui essaya de mépriser Israël et de chercher à le maudire, mais il a dit, je le vois comme un buffle. Quelles sont belles tes tentes. Maudit soit quiconque te maudira, béni soit quiconque te bénira. Il semble qu'Hitler aurait pu voir cela. Il semble que ces chrétiens allemands auraient pu voir cela. Voyez-vous, c'est absolu, absolument contraire à cette parole. Vous savez, comme cela a été dit, Dieu a fait l'homme, mais l'homme a fait des esclaves, l'un essayant de dominer sur l'autre. Nous avons un dirigeant, c'est Dieu. Mais Hitler était l'absolu de l'Allemagne. Regardez cela aujourd'hui. Maintenant, vous voyez ce qui est arrivé? C'était un mauvais absolu. Pourquoi? Il était contraire à la parole. Et maintenant, vous voyez à quoi tout cela a abouti, à une infamie. Si votre absolu est dans une quelconque organisation ou une sensation ou quelque chose d'autre que la personne de Jésus-Christ, vous aboutirez à la même part de honte, seulement pire. Voyez-vous? Si votre absolu n'est pas Christ, c'est le seul poteau central de la vie humaine. Et Christ est la parole, pas votre Église, votre parole, la parole. Voyez-vous, sur cet absolu, je bâtirai mon Église, sur Christ, la parole. Il y avait une époque où Mussolini était l'absolu de Rome. Je ne sais pas, il se peut que j'ai lu un article, ou il se peut que j'ai lu cela dans un livre, ou quelqu'un me l'a dit, mais il s'agissait de quelqu'un qui était interviewé par Mussolini. Il voulait faire participer Rome à l'athlétisme, et on avait érigé là-bas une grande statue de lui en rapport avec l'athlétisme. C'est très bien. La Grèce en avait eu l'idée il y avait de nombreuses années. Rome a toujours essayé d'avoir cela. C'est bien d'avoir des athlètes ou de l'athlétisme, mais rappelez-vous, cela ne prendra pas la place de Christ. Peu importe combien vous êtes fort, cela n'a rien à voir avec cela. Il est toute puissance. Et vous voyez sur quoi il a essayé de construire Rome. Il a essayé de bâtir Rome sur une affaire d'absolu qui était, lui, cet absolu. On raconte qu'un jour, son chauffeur est arrivé une minute trop tôt et il l'a abattu. Il a dit, « Je ne t'ai pas dit d'être ici à 9h moins une. » Il dit d'être ici à 9h. Vlan, il l'a abattu. Voyez-vous? Je ne veux pas que vous soyez ici une minute à l'avance. Je veux que vous soyez ici à 9h. Voyez-vous? Regardez quelle sorte d'absolu il a essayé de se faire. Mais voyez ce qui est arrivé. Vous vous rappelez, beaucoup d'entre vous ici, les anciens Royce Trotter peut-être, et encore plus en arrière, vous vous rappelez lorsque là-bas, je vous ai dit ceci par prophétie, un jour là-bas, au bâtiment appelé Old Fellow, avant même que nous venions ici, j'ai dit, Mussolini aura une fin honteuse. J'ai dit, pour sa première invasion, il ira en Éthiopie, et l'Éthiopie tombera à ses pieds, mais il arrivera à sa fin, et personne ne l'aidera, et il sera enterré dans la honte. Ce fut ainsi. J'ai dit, il y a trois ismes qui sont apparus, le nazisme, le fascisme et le communisme. Et j'ai dit, ces ismes vont évoluer et aboutir en un seul, ce sera le communisme. Observez, le communisme brûlera Rome. Observez cela. C'est un instrument dans la main de Dieu. Ils pensent qu'ils sont contre Dieu, alors qu'en fait, ils collaborent de plus en plus sans le savoir. Dieu se sert d'eux comme d'une marionnette, un instrument dans sa main, comme il l'a fait avec Nebuchadnezzar et beaucoup d'autres. Maintenant, remarquez, voyez-vous, bon, il y avait une époque où Pharaon était l'absolu de l'Égypte, mais regardez où il en est maintenant, voyez-vous, tout a failli. Oh, c'est une mauvaise sorte, donc ils faillissent toujours. Ce sont des absolus de fabrication humaine. Vous ne pouvez pas prendre un absolu de fabrication humaine, peu importe que ce soit un président, que ce soit un dictateur, que ce soit un roi, que ce soit une église, que ce soit une organisation, que ce soit un credo, toutes ces choses vont périr, comme tous les absolus de ce type-là à travers les âges. Nous pouvons regarder en arrière. Regardez en arrière! Regardez les hommes qui ont mis leur confiance dans les empereurs. Regardez les hommes qui ont mis leur confiance dans les dictateurs. Regardez les hommes qui ont fondé leur espoir sur ces sortes d'absolus. Et regardez où ils en sont aujourd'hui. Maintenant, faisons demi-tour et regardons les hommes qui ont placé leurs espoirs sur la Bible, sur la parole de Dieu, et qui l'ont prise comme absolue. Regardez où ils en sont maintenant. Paul vous donne un petit résumé de ce qu'ils ont fait dans Hébreux au chapitre 11. Il raconte comment ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, et ainsi de suite, ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, eux dont le monde n'était pas digne, attendant dans la gloire cette formidable résurrection. Voyez-vous? C'est très bien, car certains d'entre eux n'ont pas obtenu ces miracles. Ils ont donné malgré tout leur corps, se réjouissant à l'avance de cette résurrection. Ils ne s'inquiétaient pas de la manière dont ils termineraient leur vie. Ils voulaient continuer à se sacrifier afin qu'ils puissent obtenir cette résurrection. Et c'est ce qu'ils ont fait. Bien, nous parlons donc d'absolu, un absolu. Vous savez, notre cours suprême est un absolu. C'est un absolu, c'est la fin de toute discussion dans ce pays. C'est juste. Leur décision dans notre Cour suprême est un absolu. C'est juste. Oh. Oh, je sais que parfois nous n'aimons pas cela, mais c'est malgré tout un absolu. Oui, monsieur. Qu'arriverait-il si nous n'avions pas cela? Mais c'est un absolu, certainement. Pourquoi? C'est, notre nation est rattachée à cela. Quand cette Cour suprême prend sa décision finale, ça y est, il n'y a pas. Où allez-vous aller après cela? Vous allez suivre leur décision, c'est tout. Vous y êtes contraints. Ils sont le dernier mot. Ils sont là même. Vous pouvez passer par des tribunaux locaux, municipaux, vous pouvez passer devant le juge, puis passer devant toutes sortes de tribunaux et aller jusqu'aux tribunaux fédéraux. Mais quand nous arrivons à la Cour suprême, ça y est, c'est terminé. Certainement. Parfois, nous n'aimons pas, nous disons, eh bien, je n'apprécie pas leur décision, mais essayez de, une fois de vous y soustraire. C'est l'absolu de la nation. Qu'arriverait-il si nous n'avions pas cela? Oui. Nous devons avoir un absolu. Chacun doit en avoir un. Vous en avez un. Mais ce que j'essaie de vous dire, je fais un tour d'horizon pour vous montrer ce que sont des absolus. Bon, la Cour suprême du pays est l'absolu de la nation. C'est la fin de toute dispute. Ils règlent cela. Ce qu'ils disent, eh bien, c'est ça. Il y a un absolu dans un jeu de ballon. C'est l'arbitre. Oh oui. Parfois, nous n'apprécions pas sa décision non plus, mais c'est quand même ça. L'arbitre, sa décision est sans appel. C'est vrai. Peu importe ce que d'autres disent, s'il dit que c'est un strike, un coup, c'est un coup. C'est vrai, certainement. Peu importe ce que d'autres disent, cela n'a rien à voir. Mais pensons simplement à cela. Si vous, je ne vais pas au match de ballon, mais j'ai juste noté cette idée. Un arbitre est absolu du jeu de ballon. L'un d'entre eux dira, c'était une balle. Un autre dira, tu es un menteur. Celui-ci dira, ce n'est pas comme ça. Ça devrait être comme cela. L'arbitre dira, strike. Vous voyez? Alors les autres gagnent leur place et s'assoient. Certains d'entre eux vont ronchonner, mais je m'imagine qu'ils le siffleront. Ils lui en voudront, là, dans leur cœur, mais c'est malgré tout un strike. Pourquoi? Il est le dernier mot. Le premier gardien de but dira, vous savez, qu'est-ce que ça a passé? L'autre dira, tu sais que c'est faux. Il dira, strike. Un point, c'est tout. Alors taisez-vous et retournez à votre place. Qu'arriverait-il s'il n'y avait point d'arbitre à un jeu de ballon? Oh là là, pourriez-vous imaginer quelque sorte de jeu que ce serait? L'un d'eux dirait c'est un strike, l'autre dirait ceci, l'autre dirait cela, l'autre dirait c'est un menteur, il se disputerait, se battrait. Pour avoir un jeu de ballon, vous devez avoir un absolu. Alors il s'avance sur le terrain et peu importe que vous l'appréciez ou non, il est quand même l'absolu. Il est l'absolu, sa parole est sans appel. Peu importe ce que vous en dites, c'est ainsi. Eh bien, s'il n'avait pas ça, toute la partie deviendrait un chaos, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Qu'est-ce que la nation serait s'il n'y avait point de tribunal fédéral? S'il n'y avait pas de cour suprême dans ce pays, où irait-il? La nation serait dans le chaos. S'il n'y avait pas d'arbitre à un jeu de ballon, cela finirait. Vous n'auriez pas touché le ballon, que quelqu'un ferait déjà des histoires. Quelqu'un se tiendrait là et peut-être que c'est allé effectivement sur la base, mais l'autre dirait, oh non, 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 il n'a pas fait ici, et voilà, ça commence. Dès la première balle lancée, il argumenterait. L'un d'entre eux dirait, c'était un strike. L'autre dirait, ce n'était pas un strike, voyez-vous. Vous devez avoir quelqu'un sur qui ce jeu repose, et c'est l'arbitre. Et quand il dit strike, c'est strike. S'il dit balle, c'est balle. Quoi qu'il dise, c'est bon, c'est ça. Et si vous ne faisiez ainsi, vous n'auriez point de jeu. Laissez-moi vous montrer un autre absolu. C'est le feu rouge. Un feu rouge. Quand il dit stop, ça a l'air de dire stop. Si vous le passez, vous allez le payer. Mais si cette ville n'avait pas de feu rouge, quelle sorte de ville serait-ce? Elle doit avoir un absolu. Peu importe ce que l'agent de police a dit ou n'importe qui se tenait là, il passe en second. Si quelqu'un peut prouver que vous avez passé avec la lumière verte, peu importe ce que dit l'agent de police, ils ont tort. Quand la lumière dit départ, cela veut dire départ. C'est l'absolu. Vous pouvez prouver cela. La lumière a dit départ. L'agent de police se tenait peut-être quelque part, ou le maire de la ville se tenait, ne fait pas la moindre différence. Si vous avez la preuve que cela disait départ et vous êtes parti, si quelqu'un vous touche, c'est de sa faute. Vous pouvez le prouver, c'est juste. Vous pouvez prouver que nous, ce que nous disons, c'est vrai. Maintenant, qu'arriverait-il s'il n'y avait point de feu rouge? Quelqu'un arriverait à toute vitesse dans le carrefour et regardez ce que cela serait. Quelqu'un dirait, hey, enlevez-vous du chemin, je suis pressé, je dois aller au travail. Je suis en retard maintenant, je vais traverser maintenant. L'autre dirait, n'y pensez pas parce que c'est moi qui vais traverser, parce que j'étais ici en premier. Et je peux voir une femme sortir de sa voiture et arranger ses cheveux. Qu'arriverait-il si nous n'avions point de feu rouge? N'y aurait-il pas un bel embouteillage? C'est ce qui se passe avec les églises, voyez-vous, certainement. C'est la raison pour laquelle nous avons un tel embouteillage dénominationnel. Exactement. Personne n'arrive à quelque chose. Il reste là à se disputer. Voici la lumière de Dieu. Quand il dit départ, allez-y. Quand il dit stop, c'est suffisamment loin, arrêtez-vous là. C'est juste. C'est là-dessus que nous nous fondons. Cela. Cette parole, pas sur ce qu'un certain groupe d'hommes a dit ou ce qu'un autre a dit. Jésus a dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Allons-y. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous savez, aussi bonne que soit l'instruction, Jésus n'a jamais exigé cela. C'est vrai, aussi bonne que soient les églises, les bâtiments, il n'a jamais exigé cela. Aussi bon que ce soit les hôpitaux. Nous, les églises, ont construit des hôpitaux, c'est bien, nous apprécions cela, mais il n'a jamais exigé cela. Il a dit à l'Église, prêchez l'Évangile. Et l'Évangile n'est pas venu en parole seulement, mais aussi en puissance et en manifestation de la parole. C'est ce que Paul a dit. Alors, allez manifester l'Évangile. Oh là là, si c'est ainsi. Oh, aujourd'hui, nous vivons dans un temps où nous avons les meilleurs docteurs que nous avons jamais eus. Nous avons les meilleurs médicaments à disposition, vous savez. Et nous tirons notre chapeau à ces hommes. Nous prions pour eux. C'est ce que je fais, et j'espère que vous le faites aussi. Ces hommes qui, avec leur compréhension de ce qu'ils sentent, ils ont deux sens pour les guider dans leur travail, c'est la vue et le toucher, et l'ouïe. Ils travaillent d'après le bruit du cœur ou une tumeur ou autre chose qu'ils touchent ou d'après la vue de quelque chose qu'ils peuvent voir, la propagation d'une maladie ou quelque chose qui recouvre le visage ou le corps quelque part. Ils travaillent d'après ces choses, voyez-vous, parce que c'est... Ils essaient de prendre des médicaments et une certaine quantité tuera cela, mais ne vous tuera pas, vous, etc. C'est leur affaire de travailler sur cela et nous apprécions cela, c'est très bien. Quand nous avons les meilleurs docteurs, les meilleurs médicaments, les meilleurs hôpitaux et plus de maladies que nous n'avons jamais eues. Nous avons davantage d'incrédulité que jamais. Oui, monsieur, exactement. Les prédicateurs se sont organisés et ont de grandes dénominations acceptant n'importe quoi au milieu d'eux. Et pour n'importe quel prétexte, faisant un membre d'église, ils sont gagnés à quelques séminaires qui ressemblent à un incubateur à poulet, d'où ils éclosent en passant par un broyeur qui les fait sortir comme cela. Et parfois, ils ne connaissent pas plus Dieu qu'un Otanto ne connaît une égyptienne. Ils les font sortir comme cela. Et vous disent, voyez-vous? Oh, ce dont nous avons besoin dans nos églises, c'est un homme qui a un absolu. Ce dont nous avons besoin dans l'église méthodiste, dans l'église baptiste, l'église pentecôtiste, l'église presbytérienne, c'est d'un absolu. Un homme de Dieu qui restera attaché à la parole et à Christ et qui amènera cette congrégation dans cette condition où chaque membre marchera d'après cette parole. Voyant cette parole manifestée, ces signes accompagneront ceux qui auront cru partout dans le monde. Ils disent, ça a été aboli, mais Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous n'avons pas encore atteint le monde entier et bien loin d'avoir atteint chaque créature. Jusqu'où aller? Par tout le monde. Vers qui? Chaque créature. Qu'arrivera-t-il? Ces signes accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent les serpents ou s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. C'est l'absolu qui tient là, la parole, cette étoile polaire, cette boussole qui reste exactement avec cela. C'est ce dont nous avons besoin. Mais nous sommes allés construire des institutions, nous avons organisé les gens, recueilli des membres, et nous nous sommes disputés avec les baptistes parce qu'ils ne croyaient pas comme nous, et les baptistes parce qu'ils ne croyaient pas comme ceci. Nous avons monté un plus grand séminaire et construit de plus grandes églises avec les bancs les plus luxueux, un plus gros orgue, et les gens les mieux habillés, ils ont amené les maires et tous les gens dans l'église. Et qu'avons-nous obtenu? La mort attachée à un absolu dénominationnel. La mort! Oh, pourvu que non! si je meurs en pleine activité, mon absolu est Jésus-Christ. C'est à cela que je crois. Si tout le monde s'en va, quelqu'un m'a dit, le docteur Davis m'a dit, « Billy, si tu prêches une telle chose, tu la prêcheras aux poteaux de l'Église. » J'ai dit, « Je prêcherai alors la parole de Dieu aux poteaux, parce que Dieu peut, de ses poteaux, susciter des enfants Abraham. » C'est vrai, la parole de Dieu est vraie. Il a dit, « Tu penses qu'ils te croiront ?» J'ai dit, « Ce n'est pas mon affaire, c'est mon affaire de rester fidèle à cette parole. » C'est vrai. Il a dit, « Tu penses que tu pourras aller au-devant d'un monde instruit, comme ceci, avec une théologie de guérison divine? » J'ai dit, « Ce n'est pas ma guérison divine, c'est sa promesse. » C'est lui qui a donné la commission. Oh, et je me rappelle quand il est descendu là-bas dans cette grande lumière, alors que je me tenais dans le fleuve en 1933, en juin, et qu'il a dit, « Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer et préparer la première venue de Christ, je t'envoie avec un message pour le monde, pour annoncer et préparer la seconde venue de Christ. » Et il est allé dans le monde entier, et les feux du réveil ont été allumés durant 15 ans sur presque chaque montagne. La guérison divine à travers les nations et la puissance et la restauration. Et maintenant, je crois qu'il est prêt à atteindre son point culminant, final, là-bas, pour produire une foi qui enlèvera l'Église dans la gloire, et elle se trouve dans les messages. Nous sommes vraiment au temps de la fin. Nous en avons parlé et tout le reste, mais la chose est arrivée sur nous maintenant. Écoutez-les. Oui, monsieur, en voici un. C'est juste le feu rouge, comme je l'ai dit, règle l'affaire, c'est tout. Le feu rouge vous dit qui part. Peu importe ce que dit quelqu'un d'autre, c'est ce que le feu rouge dit. Vous pouvez avoir... Vous pouvez vraiment avoir un embouteillage si vous ne le faites pas, si vous ne tenez pas compte du feu rouge. Il doit y avoir un absolu, oui, monsieur. Comme pour l'Église, il doit y avoir un absolu. Pour les gens dans l'Église, vous devez avoir votre absolu. Mais aujourd'hui, chaque Église a son propre absolu, voyez-vous. Il n'essaie pas de prendre « nous, baptistes, nous croyons ceci. Nous, méthodistes, nous croyons ceci. Nous, presbytériens, nous croyons ceci. Nous, pentecôtistes, nous croyons ceci. » C'est très bien. Mais pourquoi ne prenez-vous pas le reste de cela? Qu'en est-il du reste de cela? Nous, baptistes, nous croyons à l'immersion. C'est bien. Mais maintenant, qu'en est-il du baptême du Saint-Esprit? Qu'en est-il du parler en langue? Qu'en est-il des dons de guérison? Qu'en est-il de la prophétie? Oh non, nous n'y croyons pas. C'était pour un autre âge. Oh là là, vous, pentecôtistes, vous dites, eh bien, nous croyons au parler en langue comme évidence. Certainement, le parler en langue est très bien, mais ce n'est malgré tout pas l'évidence. Bien des gens parlent en langue, certainement, et c'est aussi loin qu'ils n'iront jamais. Le diable peut imiter n'importe quel don dans la Bible. Paul a dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, quand je vendrai tous mes biens pour nourrir les pauvres, et quand j'aurai la foi jusqu'à transporter les montagnes, quand j'irai au séminaire, que j'apprenne tout ce qu'on peut bien apprendre, que j'ai toute la connaissance, je suis encore rien. C'est la personne de Christ. Christ, recevez-le. Et vous ne pouvez pas le recevoir, lui, sans recevoir sa parole. La parole doit venir premièrement. Puis la vie entre dans cette parole et manifeste cette parole. Jésus n'a-t-il pas dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. » C'était la parole de Dieu étant manifestée. Dieu était en Christ, réconciliant, exprimant lui-même au monde ce qu'il était. C'était l'absolu. C'était là l'absolu éternel. Vous me direz alors, est-ce que l'éternel à Frère Branham? Ça l'était. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Jésus a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Le même absolu, très bien. Chacun a son propre absolu. Oh là là. C'est comme au temps des juges. Chaque homme faisait ce qui était juste à ses propres yeux. Au temps des juges, chaque homme avait son propre absolu. Il faisait simplement ce qu'il voulait. Et c'est ainsi maintenant. Chaque homme faisait ce qui était juste à ses propres yeux. Maintenant, vous connaissez la raison pour laquelle ils ont fait cela dans les juges? Cela vous choquera peut-être un petit peu, mais la raison pour laquelle ils ont fait cela dans les juges, c'est qu'ils n'avaient point de prophète dans ce temps-là à qui la parole de l'Éternel pouvait être adressée. Chaque homme pouvait donc faire ce qui lui convenait. Et c'est exactement ce qui est arrivé aujourd'hui. Nous n'avons pas eu de prophète dans ces temps de dénomination, mais Dieu nous en a promis un, voyez-vous, certainement. Dans les derniers jours, il susciterait et enverrait à nouveau Élie sur la scène, et il ramènerait le cœur des enfants à la foi des pères, un retour à la Pentecôte originale. Vous savez ce qu'il a dit? Et je sais que vous vous référez comme lui à Jean, là dans Matthieu au chapitre 11 et le verset 6. Je crois que ça se trouve là, quand ils ont dit, « Qui penses-tu était cet homme, ce Jean? » Il a dit, « Si vous pouvez le recevoir, c'est celui dont il est parlé. Voici, j'enverrai mon messager devant ma face. » C'est Malachie 3, pas Malachie 4. Mais rappelez-vous, si c'était celui de Malachie 4, alors la parole a manqué, parce qu'il a dit que juste à ce moment-là, le monde entier serait brûlé et que les justes marcheraient sur les cendres des méchants. Non, ne mélangez pas cela, frère. Faites-lui dire exactement ce qu'elle dit. C'est juste, il a promis cela dans les derniers jours. Et cela sera ainsi au beau milieu. Rappelez-vous, dans les juges, chaque homme faisait comme il voulait. Il n'y avait aucun homme qui puisse faire vivre cette parole. Il n'y avait aucun prophète. La parole du Seigneur vient toujours au prophète. C'est juste. Et il est toujours détesté. Il n'y a qu'un petit groupe qui l'aime. Et voyez-vous, je veux dire qu'il a toujours eu cela. Dieu ne change pas sa politique. Il ne le peut pas. Il reste Dieu. Si Dieu dit une fois quelque chose ou fait quelque chose, il doit le faire la prochaine fois. Quand cette crise arrive, s'il n'agit pas la seconde fois comme il a fait la première fois, c'est qu'il a mal agi la première fois. Et qui accusera Dieu de mal agir? Qui est-ce pour accuser Dieu de péché? C'est ce que Jésus a dit. Qui d'entre vous me convaincra de péché? Qu'est-ce que le péché? L'incrédulité, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Lequel d'entre vous peut me montrer que je n'ai pas accompli tout ce que le Messie devait faire? Voyez-vous? Personne n'a dit un mot. Il l'avait fait. Le Messie était un prophète et il avait démontré qu'il était cela. Il n'avait pas eu de prophète pendant des centaines d'années, depuis Malachie. Et en voici un qui apparaît sur la scène. Il est un mystique pour les gens et une pierre d'achoppement pour leur église. Parce qu'il a dit, voici, je mentionne une pierre angulaire, précieuse, éprouvée. Oh, une pierre d'achoppement, oui. Mais quiconque croit en lui ne sera point confus, c'est juste. Et voilà, et il accomplissant exactement l'Écriture. Mais ceux qui croyaient en lui avaient un absolu. La petite Marthe, quand elle a vu Lazare sortir du tombeau, elle a su qui c'était avant même que cela n'arrive. Elle avait l'absolu où elle savait, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Même maintenant, bien que mon frère soit mort, dis simplement la parole, Dieu le fera. Amen. Elle était absolument certaine. C'est juste, quand il a dit cela, et c'est vraiment venu de son corps, il a dit, où l'avez-vous enseveli? Elle a dit, viens et vois. Il s'est tenu là avec une vision, parce qu'il a dit, je ne fais rien avant que le Père me le montre, Jean 5, 19. Il a envoyé loin de la maison Lazare, il l'a envoyé chercher pour qu'il vienne prier. Il savait que Lazare allait mourir après un certain temps. Il a dit, notre ami Lazare dort. Ils ont dit, il fait bien. Il a dit, il est mort. Et à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. On lui aurait demandé de prier pour lui. Il est alors revenu et a dit, mais je vais le réveiller. Oh là là, Père, je vais aller voir ce que je peux faire. Je vais le réveiller. Pourquoi? Le Père m'a déjà montré ce qu'il faut faire. Il est allé au tombeau, et là se tenait un homme. Là se tenait Dieu dans la chair, qui aurait pu dire à la pierre, dissous-toi, et elle serait dissoute. Mais elle a dit à ses femmes et à ses pauvres petites femmes, ses petites jeunes femmes, ôtez la pierre. Vous avez aussi quelque chose à faire, voyez-vous? Et elles roulèrent la pierre, cela les a rendus malades. Ils sentaient si mauvais. Elle s'est tenue là. Oh là là, je peux le voir redresser son frêle petit corps. Parce que la Bible a dit que son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'était pas grand-chose à voir, voyez-vous. Tout comme David, il fut choisi comme roi, alors qu'il n'était qu'un petit garçon au teint coloré, voyez-vous. Tous ces grands, gros gaillards ont dit, ne serait-il pas joli avec une couronne sur la tête? Prends ce petit fils aîné, dit Isaïe. Samuel a dit, Dieu l'a rejeté. Il a fait venir tous ses fils. Et il a dit, n'en as-tu pas encore un autre? Vous en avez un, mais il n'aurait pas l'air d'un roi. C'est un tout petit gars, aux épaules arrondies, au teint coloré. Va le chercher. Et aussitôt qu'il est arrivé devant ce prophète, l'esprit est tombé sur lui. Il a couru avec ses tuiles, il a versé sur sa tête et il dit, voici votre roi, c'est ça. Oui, monsieur. Et Jésus s'est tenu là, les épaules arrondies, peut-être commençant à grisonner, alors qu'il n'avait pas encore plus de 30 ans. La Bible dit qu'il en apparaissait peut-être 40. Les Juifs ont dit, tu n'as pas encore 50 ans et tu dis que tu avais Abraham. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Oh là là, Jean 6, nous le retrouvons donc. Debout près du tombeau, il savait que cette vision devait se confirmer. Il savait que cela devait arriver. Ôter la pierre. Il sentait mauvais, enveloppé dans des habits mortuaires, mort depuis 4 jours. Son nez s'était déjà affaissé dans ce laps de temps. Il s'est tenu là, redressé son petit corps. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Citez-moi un homme qui puisse faire une telle déclaration. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle a répondu, oui, Seigneur. bien qu'il ait manqué à son égard, semblait-il, quand elle l'a fait appeler. Elle n'est pas venue. Elle l'a fait appeler de nouveau. Il n'est pas venu. Mais ici, elle dit, « Je sais que tu es le Christ qui devait venir dans le monde. » Il a dit, « Lazare, sors. » Et un homme qui était mort depuis 4 jours. Pourquoi? Quoi? Christ avait l'absolu. Il avait la vision. Elle ne pouvait pas faillir. C'est juste. Elle ne pouvait pas faillir. Il en était absolument certain. Et Marthe était absolument certaine. Si elle pouvait l'amener à reconnaître qu'il était ce qu'elle croyait, elle obtiendrait ce qu'elle demandait. C'est juste. Mais voilà, l'absolu, c'était relié à la parole, et c'était cela. Chacun aujourd'hui fait ce qui est bon à ses yeux, parce qu'il n'y a point de prophète. Regardez au temps des juges. Regardez donc au temps de, je crois qu'il s'agissait d'Élie ou d'Élisée, l'un des deux, oui. Où il y avait le bébé mort. Et la femme Shunammite, elle a... Élie était l'homme de Dieu de ce moment-là. Pas juste un bon enseignant intelligent, c'était un vieil homme qui allait de ceci, de là. S'il était venu à votre propos, vous auriez probablement chassé. La nation entière le détestait. Jézabel et tous les autres la haïssaient parce qu'elle se trouvait à la Maison-Blanche et elle faisait que toutes les femmes fassent comme elle, toutes l'imitaient. Et Achab était sous son emprise. Nous n'en sommes pas trop éloignés aujourd'hui. C'est presque pareil. Eh bien, voilà. Il avait tout axé sur la popularité. Ils étaient tous pris par cela. Mais cette petite Shunammite, non pas Shunammite, mais où je crois que c'était une Shunammite, et quand elle est venue et qu'elle a vu que cette puissance était en Élie, elle a dit, « Je vois que c'est un saint homme. » Et quand ce bébé était couché là, mort, elle a dit, « Celle se mulet, il ne s'arrête surtout pas. » Elle s'est rendue là-bas, elle savait, et j'aime cela, la manière dont elle est venue. Elle est arrivée vers son absolu, son poteau d'attache. Et Élie a dit, voici cette Shunammite qui s'approche. Elle a du chagrin, mais je ne sais pas ce qui ne va pas, voyez-vous. Dieu ne montre pas tout à ses serviteurs, simplement ce qu'il veut qu'il sache. Il a donc dit, son cœur est chagriné, mais je ne sais pas. Il a dit, cours, et a dit, et va t'enquérir de ce qui ne va pas. Elle a dit, tu te portes bien, ton mari se porte-tu bien, ton fils se porte-tu bien. Regardez-la, oh là là, c'est cela. Elle a répondu, tout va bien. Pourquoi? Elle était arrivée vers son absolu. Tout va bien. Et elle s'est agenouillée. Premièrement, elle est tombée à ses pieds et Géasi l'a relevée. Ce n'était pas juste devant son maître. Elle l'a relevée. Elle a commencé à lui raconter. À ce moment-là, il n'avait pas d'absolu. Il savait qu'il avait le pouvoir par la vision de lui donner l'enfant. Mais maintenant, que pouvait-il faire? Il a pris son bâton et est entré dans la chambre. A fermé toutes les portes et a fait sortir tout le monde. Il a marché de long en large dans la chambre. Il avait un absolu, s'il pouvait seulement le contacter. Il faisait les 100 pas dans la chambre. Oh là là, tout à coup, il a senti quelque chose le frapper. Il s'est couché sur le bébé, puis s'est relevé. S'en est éloigné, le bébé a un peu bougé. Il s'est réchauffé, il s'est relevé plusieurs fois. Il n'avait pas eu un bon contact avec l'absolu. Que t'es, Seigneur? Comment as-tu dit de faire? Sans doute qu'il s'est retourné, il a eu une vision. Ce petit garçon qui partait jouer en courant, qui sautait à la corde, ou quelque chose comme cela, qui jouait. Il s'est jeté sur le bébé. Il a collé son nez, ses lèvres sur ses lèvres, et la puissance de Dieu a ramené le bébé à la vie. Que t'es? L'absolu de la femme, c'était un prophète. Et l'absolu du prophète, c'était Dieu. Et l'ensemble avec la parole, je suis la résurrection et la vie. La puissance de Dieu, le Créateur, ramena le bébé à la vie, certainement. La raison pour laquelle chacun agissait à sa manière, c'est qu'il n'avait pas de prophète à qui la parole de l'Éternel pouvait être adressée. La parole des prophètes manquait en ce temps-là. Oh, j'ai vu ceci à ma conversion, à propos du temps dans lequel nous vivions. Je suis si content que Dieu se soit emparé de moi avant que l'Église l'ait fait. J'aurais probablement été un infidèle, oui, monsieur, avec toute cette pagaille et chacun qui dit, « Mais venez donc chez nous et rattachez-vous à la nôtre. Et si vous ne le faites pas, alors vous pouvez prendre votre lettre et aller vous rattacher à l'autre. N'allez-vous pas vous amener votre lettre dans votre communauté? » Je crois qu'il y a une lettre. C'est lorsque Christ inscrit votre nom sur le livre de vie de l'agneau. C'est uniquement sur cela que cela se trouve. Quand j'ai vu toutes les dénominations, nous sommes de souche irlandaise qui était catholique pour commencer. et j'ai vu que c'était corrompu et pourri. Je suis allé à une certaine église dénominationnelle ici en ville, et ils m'ont dit, oh, nous sommes le chemin, la vérité, la lumière, nous possédons tout. Je suis allé à une autre, à New Albany, oh là là, ces gens-là là-bas ne savent pas de quoi ils parlent. Les catholiques ont dit, vous êtes tous dans l'erreur. J'ai dit, oh là là, je jouais avec un petit garçon luthérien, j'ai pensé, un petit garçon luthérien allemand, je suis allé le trouver, je lui ai dit, où vas-tu à l'église? Je vais à cette église-là, je suis donc allé, j'ai découvert qu'ils disaient qu'eux étaient le chemin. Je suis allé, chez le frère Dale, à l'église baptiste Emmanuel, ou la première église baptiste, ils ont dit, ceci est le chemin. Et alors, je suis à l'église irlandaise, ils ont dit, mais ceci est le chemin, oh là là, je suis tellement troublé, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je veux me mettre en règle, je ne savais que faire, et je ne savais pas comment me repentir. J'ai écrit une lettre, et j'ai pensé, je l'ai vu dans les bois, je lui ai écrit une lettre, je lui ai dit, cher monsieur, je sais que vous passez par ce sentier parce que je me suis arrêté ici en chassant l'écureuil. Je sais que vous passez par ici. Je sais que vous êtes ici. Je veux dire que je veux vous dire quelque chose. J'ai pensé maintenant, attends une minute. Je n'ai jamais vu quelqu'un auquel je veux leur parler. Je veux parler avec eux. Je veux lui parler. J'ai pensé, et bien maintenant, je ne sais pas comment m'y prendre. Je suis allé dans la remise, je me suis agenouillé, il y avait là de l'eau, c'était mouillé, il y avait là une vieille voiture accidentée. J'ai dit, je crois que j'ai vu une image, je crois qu'ils mettaient leurs mains comme ceci. Et je me suis agenouillé. Et j'ai dit, maintenant, que vais-je faire? Que vais-je dire? J'ai dit, on doit le faire d'une certaine façon, et je ne la connais pas. Je sais qu'il y a une façon d'aborder tout. J'ai dit, j'ai mis mes mains comme ceci. J'ai dit, cher monsieur, je souhaiterais que vous veniez et que vous parliez avec moi juste un instant. Je veux vous dire combien je suis mauvais. J'ai tenu ma main comme ceci. J'ai écouté. Les gens ont dit, Dieu m'a parlé et je savais qu'il parlait effectivement parce qu'un enfant, je l'avais entendu me dire de ne pas boire et ainsi de suite. Il ne m'a pas répondu. J'ai peut-être que je suis censé mettre mes mains comme ceci. J'ai donc dit, cher monsieur, je ne sais pas exactement comment m'y prendre, mais j'espère que vous, êtes-vous prêt à m'aider? Et chaque prédicateur me disant de venir me rattacher à la leur et disant qu'il avait pris Jésus-Christ et qu'il croyait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Les démons croient la même chose. J'ai donc pensé, je dois avoir quelque chose de meilleur que cela. J'étais donc assis comme ceci. J'ai lu l'endroit où Pierre et Jean ont passé par la porte appelée la Belle, et là se trouvait un homme estropié dès le sein de sa mère. Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais qu'est-ce que j'ai? Oh, je savais que je n'avais pas cela. J'essayais donc de découvrir comment m'y prendre. Je ne savais pas comment prier. J'ai pris mes mains et je me suis dit, bien sûr, Satan est alors entré en scène et il m'a dit, tu vois, tu as entendu trop longtemps, tu as déjà 20 ans, cela ne vaut plus la peine d'essayer maintenant. Tu as déjà. Alors, j'ai complètement craqué. Je me suis mis à pleurer et une fois vraiment brisé, j'ai dit, je vais parler. Si vous ne me parlez pas, je vais parler quand même. Je vais vous parler. J'ai donc dit, je ne vaux rien. J'ai honte de moi. Monsieur Dieu, je sais que vous allez m'entendre quelque part. Vous m'entendrez. Et j'ai honte de moi. J'ai honte de vous avoir négligé. Et à peu près à ce moment-là, j'ai levé les yeux et un sentiment étrange m'a envahi. Une lumière est alors apparue et en se déplaçant dans la chambre, elle formait une croix comme cela et une voix que je n'ai jamais entendue de ma vie a parlé. Je l'ai regardée, j'étais transi de froid, paralysé de peur. Je ne pouvais pas bouger, je me suis tenu là regardant cela, puis cela a disparu. J'ai dit, monsieur, je ne comprends pas votre langage. J'ai dit, si vous me parlez par le mien, que moi, je ne comprends pas le vôtre. Si vous m'avez pardonné, je sais que je suis censé me retrouver quelque part dans cette croix. Mes péchés devraient s'y trouver. Et si vous êtes prêt à me pardonner, revenez simplement me parler dans votre propre langage. Je comprendrai d'après cela, si vous ne pouvez pas me parler mon langage. Je dis, laissez simplement cela revenir. Et la voilà de nouveau. Oh, miséricorde! Là, j'ai reçu un absolu. Amen! Oui, monsieur, j'ai senti comme si un poids de 40 tonnes quittait mes épaules. J'ai marché sur ce passage en bois sans même toucher par terre. Ma mère m'a dit, Billy, tu es agité. J'ai dit, non, maman, je ne sais pas ce qui est arrivé. Il y avait une voie de chemin de fer près de là. J'ai suivi cette voie de chemin de fer en sautant aussi haut que je pouvais. Je ne savais pas comment extérioriser mes sentiments. Oh, si j'avais su pousser des cris de joie, je jubilais à ma façon, à moi. Voyez, qu'était-ce? J'avais ancré mon âme dans un arbre de repos. Ça réglait la question. C'était mon absolu. Là, j'avais découvert quelque chose. Pas un mythe, pas une idée. J'avais parlé avec cet homme. J'avais parlé avec cet homme qui m'avait dit de ne jamais boire, ni fumer, ni souiller mon corps d'aucune manière avec des femmes, que lorsque je serai plus âgé, que j'aurai un travail à faire. Je l'avais contacté, lui, non pas l'Église, je l'avais contacté, lui, oui, monsieur, il s'agissait de lui. C'est comme cet homme qui parlait ici chez les Kiwanis, il n'y a pas juste après la Première Guerre mondiale, frère Funk qui se trouve là, et lui-même soldat, il a dit qu'il était, cela a un peu l'air d'être une plaisanterie, ce n'est pas un endroit pour plaisanter, mais voici ce qu'il a dit, il se trouvait ici à New Amberley, il a dit le capitaine, nous a fait sortir, il nous a dit, ce pays entier est cerné par les Japonais, demain mes garçons nous attaquons, nous devons les prendre, il a dit, rappelez-vous mes garçons, il y en a beaucoup d'entre nous ici, aujourd'hui, qui ne seront plus là demain, ils ne seront plus ici demain, nous attaquons demain l'autre, il a dit maintenant que chacun de vous contacte sa propre religion. Et ce gars-là a dit, mais moi, j'en avais pas. J'ai dit, je me suis tenu là, et tous les autres, il a dit, un aumônier est arrivé, ils sont partis dans cette direction, les protestants sont partis dans cette direction, les juifs sont partis dans cette direction, les catholiques sont partis dans cette autre direction avec les aumôniers, et moi, je suis resté là. Il a dit, le commandant m'a dit, eh bien, mon garçon, tu ferais mieux de contacter ta religion, mais j'ai dit, je n'en ai pas. Il a dit, tu ferais mieux d'en trouver une, parce que tu vas en avoir besoin, si tu peux, j'en suis sûr. Il a raconté qu'à ce moment-là, il avait un groupe de catholiques passé. Il s'est avancé, il a dit à ce prêtre, pourriez-vous me donner un peu de religion? Il a dit, viens avec nous. Et je suis allé là-bas. Il a fait de moi un catholique. Et là, à New Amberley, il se trouvait un John Howard et un groupe catholique très fidèle. Vous savez, quand cet homme racontait ceci, il raconte le lendemain au combat, il racontait comment c'était. Il a dit, c'est un grand gaillard, vous savez. Il a dit qu'ils s'en sont arrivés au corps à corps. Et il se donnait des coups de couteau. Et il criait, il coupait, entaillait. Les lignes se sont mélangées. Ils se sont retrouvés l'un derrière l'autre. Les Japonais les ont laissés tomber directement là-dedans, comme cela. Les grosses mitrailleuses. Et ils crépitaient de chaque côté un combat corps à corps. Il a dit, je me suis arrêté immédiatement, comme ceci, comme ça criait de partout. Ils ont fait plus s'entendre. Il a dit, tiens, du sang. Et il ajouta, j'ai regardé, c'était mon sang. Il a dit, j'ai regardé ici, il y avait un trou dans mon sang. Et c'était mon sang. Et il a dit, vous savez, j'ai un véritable ami catholique. Je dis juste ceci maintenant en plaisantant, mais un bon catholique lui a dit, as-tu dit ton « Je vous salue Marie » Il a dit, non monsieur, c'était mon sang. Je ne voulais pas parler à une secrétaire, je voulais parler à l'homme principal. C'était mon sang. Et je pense que c'est à peu près ainsi. Oui, monsieur, c'est comme ça. Nous devons avoir un poteau d'attache, un absolu. Je n'avais pas de temps. C'est sa secrétaire, a-t-il dit. Je voulais lui parler à lui. C'est cela, frère. Quand un homme vient à Christ, vous ne voulez pas prendre la parole de quelques prédicateurs ou la parole de quelques secrétaires ou d'autres choses. Vous, protestants, ne prenez pas ceci, cela ou autre chose. Allez vers cet absolu jusqu'à ce que vous soyez ancrés là par la nouvelle naissance, étant né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, et que vous puissiez voir la Bible étant manifestée dans l'humilité et l'amour à travers votre vie. Oh, alors c'est votre absolu. Oui, monsieur. J'ai lu dans la parole où il est dit qu'il est la parole. Quand l'Église allemande a dit, c'est ce chemin-ci, et l'Église méthodiste, l'Église baptiste et l'Église catholique, mais j'ai lu dans la parole où il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne pourront prévaloir contre elle. Écoutez maintenant, alors que je termine. Maintenant, les protestants disent ou les catholiques disent qu'elle l'a bâti sur pierre. Tu es pierre et sur cette pierre. Non, jamais. Si c'était le cas, elle aurait tout de suite rétrogradé. Il l'aurait bâti sur un homme. Qu'a-t-il fait? Les protestants disent qu'il l'a bâti sur lui-même. Non, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas bâti sur lui-même. Qu'a-t-il fait? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Certains ont dit, tu es Élie et Moïse. Il a dit, mais vous, que dites-vous? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Observez les mots maintenant. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. La chair et le sang ne sont pas révélés ceci. Tu ne l'as jamais appris de quelques prêtres. Tu ne l'as jamais appris de quelques séminaires. Mais mon Père, qui est dans le ciel, te l'a révélé. Et sur cette pierre, la révélation spirituelle de la parole, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. J'ai pensé, Seigneur, c'est cela. J'ai lu dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, où il a dit, quiconque, ceci est la chose complète, quiconque y injectera quelque chose, quiconque en retranchera quelque chose, dira que c'est bien ainsi, ou quiconque essaiera de l'améliorer un petit peu, le polira pour l'époque, quiconque ajoutera ou retranchera sa part sera retranché du livre de la vie. J'ai dit, alors, c'est ce dont j'ai besoin, Seigneur. Crois ceci. Et dans ceci, cette croix là-bas, le Christ est venu. C'est là, parfait jusqu'au bout, chaque parole qu'il a dite. Prenez le livre dans cette main, l'histoire dans cette main, et cela se confirme parfaitement tout du long. Et j'ai dit, alors, Seigneur, reçois-moi. Et quand j'ai fait cela, j'ai reçu Christ, le Saint-Esprit, dans mon cœur, mon absolu. Cela n'a pas été moi. J'ai été malade une fois quand j'ai perdu mon épouse, j'ai perdu mon bébé, ou perdu mon père, et perdu mon frère, et perdu ma belle-sœur. Et Billy se mourait, et moi, j'étais presque mort. Je remontais la route en pleurant, me rendant sur sa tombe, et elle, et le bébé sur ses bras, me rendant jusqu'à la tombe. J'étais en train de marcher, et M. Hitchler, il avait l'habitude de venir jouer ici. Vous savez, le sénateur de l'État de l'Indiana, il venait sur la route, il s'est arrêté, il a couru vers moi, il m'a entouré de ses bras. C'était après l'inondation de 37, il m'a dit, Billy, où allez-vous? Là-haut. J'ai répondu, oui, qu'allez-vous faire là-haut? J'avais écouté une vieille colombe. J'ai dit, je m'assis là, près de la tombe du bébé, la sienne. Une vieille colombe descend et me parle. Il a dit, Billy. J'ai dit, oui. J'entends le bruissement des feuilles quand il joue cela. Cela joue de la musique pour moi, monsieur Isler. Il a dit, quelle sorte de musique est-ce que ça joue? Il y a un pays au-delà de la rivière, quand on appelle le doute au-delà. Et nous n'atteignons ce rivage que par le décret de la foi. Un par un, nous atteignons le portail. Pour demeurer là avec les immortels, quand un jour ils feront sonner les cloches d'or pour vous et pour moi. Il a dit, Billy, je veux vous demander quelque chose. Il a dit, que représente Christ pour vous maintenant? Que signifie Christ pour vous? J'ai dit, il est ma vie, mon tout. Il est tout ce que j'ai, M. Isler. Il est mon point de référence final. Il n'y a qu'à lui que je puisse m'accrocher. Pourquoi? Parce que quelque chose est arrivé sur cette pierre. Il a dit, je vous ai vu debout ici au coin de la rue et prêcher jusqu'à ce que vous sembliez prêt à tomber mort. Je vous ai vu à toutes les heures de la nuit parcourant les rues pour visiter les malades. Et après qu'il ait repris votre épouse et votre bébé, vous le servez encore. J'ai dit, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Pourquoi? Mon ancre tient à l'intérieur du voile. J'avais un absolu. Je m'étais accroché à sa parole. Et sa parole tenait. Il est mon absolu. J'ai découvert que toutes ces autres choses qui peuvent faillir, mais Christ ne peut jamais faillir. L'Église catholique a le pape comme absolu. Les protestants ont leur évêque et leur credo et leurs surveillants généraux. Mais moi, comme Paul, vous avez votre crayon? Inscrivez quelque chose. Paul a dit dans Actes chapitre 20 et verset 24, aucune de ces choses ne m'ébranle. Oh, ils peuvent avoir leur credo, vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais ces choses ne m'ébranlent pas. J'ai ancré mon âme dans un havre de repos pour ne plus parcourir les mers déchaînées. Je ne sais pas où vous êtes, par ici, par là. La tempête peut balayer l'océan démonté. Tout peut être sans dessus-dessous, mais en Jésus, je suis en sécurité pour toujours. Oui, aucune de ces choses ne m'ébranle, car je suis attaché à un ancre. Oh, depuis que je l'ai rencontré, a dit Paul, sur ce chemin, j'ai été attaché à une ancre. Il m'a fait faire demi-tour, il m'a redonné un bon départ. Vous vous rappelez, Paul appartenait aussi à une organisation la plus grande dans le pays, mais il s'est attaché à l'absolu. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il avait un but en me sauvant. Il avait un but en vous sauvant. Et je suis déterminé par sa volonté à faire cela, sans y ajouter ou sans en retrancher. Apocalypse 22, 19, si vous voulez l'inscrire. Très bien. Quiconque retranchera, je suis déterminé. Je me prépare à quitter l'Église, vous le savez. Je suis donc déterminé à rester avec cet Évangile aussi longtemps que je vivrai, avec l'aide de Dieu. Rappelez-vous, voici la grâce. Il y en avait des millions en train de mourir dans le péché quand il m'a sauvé. Qui était-je pour qu'il me sauve? Il avait un dessein en me sauvant. Et je suis déterminé à accomplir ce dessein. Peu m'importe, il se peut que ma fin soit maintenant pour bientôt. Mais quoi que ce soit, je reste ancré. Je ne l'ai jamais changé. M. Isler m'a dit ce jour-là, tout en marchant sur la route, « Billy, dans toutes ces difficultés, avez-vous gardé votre religion? » J'ai dit, « Non, monsieur, c'est elle qui m'a gardé. » Voyez-vous, mon ancre a tenu bon. C'est juste, je ne l'ai pas gardé, c'est elle qui m'a gardé. Je ne peux pas y arriver par moi-même, mais c'est elle qui m'a gardé. C'est cela. Il avait un but en me sauvant. Il y en avait des millions qui se trouvaient dans le péché quand je suis venu à Christ, mais il m'a sauvé moi. Il avait un but en le faisant. La mort de Christ était un absolu par rapport à la crainte qu'elle engendrait. La mort de Christ a réglé la question. Quand cette abeille de la mort l'a piqué et a ancré son aiguillon, vous savez, une abeille et un insecte qui a un aiguillon, si jamais elle ancre cet aiguillon suffisamment profondément, quand elle veut le retirer, elle le perd. La mort a toujours eu un aiguillon. La mort a toujours eu un aiguillon. Et un jour, quand ce montant au calvaire et le cahotement sur ses pierres, le sang produisant des éclaboussures sur la pierre, lorsqu'il a touché la terre au calvaire, allant à Golgotha, le dos de cette croix creuse un sillage sur les empreintes de temps ensanglanté de ce frêle petit corps qui avançait par là, alors qu'on lui donnait des coups de fouet et qu'on le meurtrissait tandis qu'il gravissait la colline. Mais il avait un absolu, il connaissait sa position, parce que la parole de Dieu avait dit par David, « Je ne laisserai pas mon sein voir la corruption, ni le laisserai son âme au séjour des morts. » Il savait que la corruption s'installe en 72 heures. Il a dit, « Détruisez ce temple. » Et je le relèverai en 3 jours. Il avait un absolu. Le voilà qui gravit la colline, couvert des crachats moqueurs de soldats ivres qui avaient entouré son visage d'un chiffon. Puis il lui avait frappé la tête en disant, « Tu es prophète, dis-nous qui t'a frappé. » Le voilà en train de gravir la colline, couvert d'ombre et de déshonneur pour être débouillé de ses vêtements, méprisant l'ignominie, étant pendu sur la croix devant les gens nus, mourant d'une manière honteuse, subissant la peine capitale infligée par le gouvernement romain. Lui, un homme qui n'avait rien fait. Une petite histoire raconte qu'une fois, Marie-Madeleine est sortie en courant et a dit, « Qu'a-t-il fait? Il a guéri vos malades, ressuscité les morts et amené la délivrance à ceux qui étaient en captivité. Qu'a-t-il fait? » Et un prêtre la frappa sur la bouche, si bien que le sang gicla et dit, « Qui préférez-vous écouter, elle ou votre prêtre? » Oh, ce monde dénominationnel, c'est une malédiction pour tout cela. C'est cela, voilà. Et ils l'amenèrent. Mais alors qu'il gravissait la colline, traînant le diable, avait toujours douté ce qu'il était. Il avait dit, si tu es le fils de Dieu, change ces pierres en pain. Tu prétends pouvoir faire des miracles. Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Ce même démon vit aujourd'hui, c'est vrai. Si tu pratiques la guérison divine, voici le vieux Jean tel et tel qui est assis là au coin de la rue. Je sais qu'il est estropié, guéri-le. Ne savez-vous pas que c'est le même vieux démon? J'ai déjà dit, je fais seulement. Regardez, il a passé par la piscine de Bethesda où se trouvaient des milliers d'estropiés, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques. Il s'est approché d'un homme qui pouvait marcher, il pouvait se déplacer, il souffrait peut-être de la prostate. Quoi qu'il en soit, cela a duré depuis longtemps. Quand j'entre dans la piscine, quelqu'un y descend vers moi, il pouvait marcher. Il a laissé tous les autres. Là, et il s'est approché de celui-là et l'a guéri. Pourquoi? Il a dit qu'il savait qu'il s'était trouvé dans cet état-là. Ils lui ont dit, ils lui ont posé la question lorsqu'ils l'ont trouvé dans Jean 5. Il a répondu, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit au Père, voilà son absolu. C'est toujours l'absolu. Maintenant, là-bas, en Finlande, ce jour-là, et ce petit garçon qui est étendu là, et j'ai marché tout autour de lui alors qu'il était étendu là, mort depuis une demi-heure, vous l'avez vu dans le livre, j'ai commencé à m'éloigner, quelqu'un posa ses mains sur moi, je me suis retourné, j'ai pensé, qu'est-ce que c'était? J'ai regardé à nouveau et j'ai pensé, attends une minute, j'ai regardé cela sur la page de garde de la Bible, il était dit, il arrivera qu'un petit garçon d'environ 9 ans sera tué par une automobile, il y aura une longue bande de conifères, semée de rochers, la voiture sera en travers de la route, démolie, il portera de petites chaussettes montantes, ses cheveux seront coupés, court. Et ses petits yeux seront révulsés, les autres de son corps seront brisés. J'ai regardé, j'ai pensé, oh Dieu! J'ai dit, restez tranquilles, vous tous! Le maire de la ville se tenait là. J'ai dit, si ce garçon n'est pas sur ses pieds dans les 2 prochaines minutes, je suis un faux prophète. Expulsez-moi alors de Finlande, certainement. Mais s'il l'est, vous avez vos vies à Christ. C'est juste, il resta tranquille. J'ai dit, Père Céleste, là-bas, de l'autre côté de la mer, il y a 2 ans, tu as dit que ce petit garçon serait couché là. Il y avait Frère Moore et Frère Lindsay et les autres qui regardaient. Et partout, ils avaient écrit cela dans leur Bible. Et des milliers de Bibles à travers le pays portaient cette annotation. Qu'était-ce? Un absolu. Le Père avait montré ce qui arriverait. Il n'y avait aucune crainte à avoir. Certainement, là, il y avait un absolu. Certainement qu'il ressusciterait. Là, en Finlande, des milliers de personnes venaient chaque soir. Il fallait même les faire sortir et s'asseoir, les faire aller dehors et faire entrer quelqu'un d'autre. Il s'était nu là avec tous les gens. Mais, il avait vu des guérisons se produire, mais voici un garçon étendu la mort. Qui était l'absolu? La vision. Je fais ce que le Père me dit de faire. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Voilà votre absolu. J'ai dit, mort, tu ne peux plus le retenir. Dieu a parlé. Reviens, rends-le. Et le petit garçon résista et regarda autour de lui comme cela. Les gens commencèrent à s'évanouir et tout le reste. Le voilà écrit là, il est signé par le maire de la ville, par un notaire. C'est juste, qu'était-ce? Un absolu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si ce n'est pas le même Dieu qui arrêta la femme venant de Nain, qui arrêta ceux qui la portaient avec son fils. Quand quelqu'un mourait en ce temps-là, il les ensevelissait immédiatement. Il ne les laissait pas attendre. Il les mettait dans le tombe. Voilà ce même Jésus-Christ hier, aujourd'hui et pour toujours. Oui, regardez là-bas au Mexique, quand ce petit bébé bébé. Certains d'entre vous s'y trouvaient. Ce bébé, le médecin avait signé une déclaration. C'est écrit dans les journaux des hommes d'affaires chrétiens. Ce bébé était mort ce matin-là à 9h et c'était 10h le soir. Et cette petite femme ne voulait pas être consolée. Billy se tenait là, mon fils, essayant de la retenir. Il avait, eh bien, je pense qu'il avait 200 huissiers qui se trouvaient là. Et elle a passé par-dessus eux tous. Ce soir précédent, cet homme avait retrouvé la vie. Elle savait cela. Elle était catholique. Mais finalement, j'ai dit, vas-y, frère mort, et prie pour elle parce que le bébé, il pleuvait à verse là-bas. Il s'était tenu là-bas depuis tôt le matin. On me descendait avec des cordes par derrière pour me faire rentrer. J'étais juste là 3 soirs. Je suis tenu là et j'ai dit, comme je le disais, je prêchais. Et j'ai regardé, j'ai vu un petit bébé juste là devant moi, un petit bébé mexicain qui n'avait pas de dents, qui était juste là et qui riait juste devant moi. J'ai dit, attends une minute, frère mort, amène-la ici. Oh! Un absolu! Les huissiers se reculèrent et la voici qui arrive. Elle est tombée à genoux en disant, Padre, Padre, j'ai dit, levez-vous. Et frère Espinoza lui a dit, levez-vous. Et là, lui a dit en espagnol, elle s'est levée. J'ai dit, Père Céleste, je suis ici, debout, dans cette pluie. C'était une jolie petite femme d'environ 23 ans, quelque chose comme cela. Ses cheveux pendaient, son petit visage regardait comme cela. Le regard de ses yeux montrait ce qu'elle attendait. Elle avait vu cet homme totalement aveugle pendant environ 40 ans et ses yeux se sont ouverts sur l'estrade. Elle savait que si Dieu pouvait ouvrir des yeux d'aveugle, il pouvait guérir son bébé. Il se trouvait là, son petit corps tout raide, enveloppé d'une couverture complètement trempée. Elle était restée debout là tout le matin et aussi toute l'après-midi. Et c'était vers 11h et 10h le soir, quelque chose comme cela, tenant ce bébé. Vous avez vu l'article? Tenant ce bébé comme cela, j'ai dit, Père Céleste, je ne sais pas ce que cela signifie, je suis simplement ton serviteur, mais j'ai vu ce bébé se tenant là, et il était vivant. J'ai posé mes mains sur lui dans le nom du Seigneur Jésus. Il a dit, ouah! Il a commencé à pleurer, la mère a saisi le bébé, a commencé à crier, les gens ont commencé à crier par là, et les femmes se sont évanouies. J'ai dit, ne dites surtout rien à ce sujet, envoyez un conseiller avec ce bébé, avec cette mère, et allez chercher ce docteur et faites-lui signer une déclaration que ce bébé est mort. Il est mort d'une pneumonie le matin précédent ou ce matin, il est là à 9h. Et nous avons une déclaration signée par le docteur. Le bébé fut déclaré mort dans le cabinet du médecin ce matin-là. Et la mère l'a transporté avec elle pendant toute la journée. Qu'était-ce? Un absolu! Qu'était-ce? Elle crut que si Dieu pouvait ouvrir les yeux d'aveugle, eh bien, Dieu pouvait ressusciter les morts. Car il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je n'étais pas certain, je ne savais pas, tant que je ne l'avais pas vu. Et quand j'ai vu le bébé, c'était un absolu, absolument juste. Ça y était. La mort devait rendre sa victime. Là se trouvait le Fils de Dieu. Cette abeille de la mort a commencé à bourdonner autour de lui. Ah, comment pourrait-il être prophète? Comment peut-il se tenir là et les laisser lui cracher au visage? Comment peut-il se tenir là et les laisser se moquer de lui et ne rien faire à ce sujet? Ce n'est pas Emmanuel, c'est simplement un homme ordinaire. Regardez cette barbe venant de ce soldat ivre. Regardez son visage qui saigne. Le diable s'est dit, je l'aurai, je l'aurai. Le voici qui vient comme une abeille, l'aiguillon de la mort bourdonnant autour de lui. Mes frères, lorsque cette abeille a ancré son aiguillon dans cet Emmanuel, lorsqu'elle a voulu le retirer, elle l'a perdu jusqu'à la mort elle-même. Ce n'est pas étonnant que Paul, plus tard, puisse la regarder en face et dire, « Oh mort, où est ton aiguillon? Oh tombe, où est ta victoire? Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. La mort de Christ était l'absolu pour tous ceux qui le craignaient. Mon cœur dit Amen à chaque parole dans son livre. Je termine maintenant, c'est sûr, je dois abréger, voyez-vous? C'est pourquoi je sais que le Saint-Esprit est ma boussole qui me guide. Il est celui qui me fait savoir que cette parole est vraie. Il est mon absolu. Il est mon rayon de soleil. Il est ma vie. Il est mon ancre. Quand les difficultés sont là, il est mon étoile polaire. Quand je suis perdu, le Saint-Esprit est ma boussole qui me ramène au bon endroit. Les dénominations sont comme les autres étoiles. Elles se déplacent avec la Terre. Les autres étoiles se déplacent en même temps que la Terre, mais pas l'étoile polaire. La Terre peut se déplacer où elle veut, mais cela reste en place. Oh, frère! L'étoile polaire est ancrée! Les autres se déplacent. Vous pouvez les voir ici et là et partout ailleurs. C'est ainsi avec les églises dénominationnelles. Mais Christ est l'absolu. Il est celui dans lequel vous pouvez placer votre confiance quand les dénominations vous ont tout simplement embrouillé. Regardez simplement vers l'étoile polaire. Le Saint-Esprit est votre boussole. Il reste toujours fidèle à sa parole. Quand on m'a dit que ces choses ne pouvaient pas arriver dans un temps moderne comme celui-ci, je savais, s'il n'y a point de Dieu, alors vis, mange, bois et réjouis-toi. S'il y a un Dieu, servons-le. Et j'ai vécu pour voir le jour où il a tout accompli, allant jusqu'à ressusciter les morts, comme lorsqu'il était ici sur terre. Et nous savons, sur la base de déclarations formelles, que c'est la vérité. Oui, monsieur, il est mon absolu. Maintenant, faites de lui votre absolu. Considérez mes moments de difficulté. Il est toujours un absolu. Maintenant, observez. Par la grâce de Dieu. Maintenant, je ferais mieux de terminer. Il se fait tard. Eh bien, regardez un peu. Je pensais que c'était 11h et c'est 12h30. Mes amis, un jour entier, une nuit entière, une année entière et toute l'éternité ne suffirait pas pour en parler. N'essayez pas de vous le figurer. Vous ne le pouvez pas. Il n'y a pas moyen de se le figurer. Vous me direz, frère Branham, si vous... Je ne sais pas. Je crois simplement. Je cesse d'essayer de faire quoi que ce soit à ce sujet. Je le crois simplement. C'est tout. Voyez-vous, ce n'est pas de celui qui court ou de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voyez-vous, ce n'est pas par les œuvres, c'est par grâce. Voyez-vous, je le crois simplement. Dieu est... C'est son affaire de s'occuper du reste. Croyez cela simplement. Agissez d'après cela. Ce chant fameux, je les ai entendus le jouer, le chanter ici ou ailleurs. Ô amour de Dieu, comme tu es riche et pur, comme tu es insondable et fort, il demeurera à jamais. C'est le chant des saints et des anges. C'est si un mathématicien essayait d'analyser cela ou essayait de montrer cela par son instruction, il deviendrait fou. Vous ne pouvez pas le faire. N'essayez pas de le faire. N'essayez pas de chercher à comprendre cela. Dieu dépasse toute compréhension. On ne se figure pas Dieu, on croit simplement en lui. C'est le secret. Ne cherchez pas à le comprendre. Croyez-le simplement. Je ne peux pas vous dire que cela signifie. Je ne peux pas vous dire comment le faire. Je sais simplement que je crois cela, c'est tout. C'est comme lorsque vous promettez quelque chose à un petit enfant, il le croit. Vous devriez tenir parole. Vous êtes un enfant de Dieu. Il tient sa parole. Croyez-la simplement. Ne soyez pas ébranlés. Restez bien à votre place. Si Dieu l'a fait une fois, il doit le faire à nouveau. S'il ne le fait pas, il vous dira pourquoi il ne fait pas le faire. C'est juste. Maintenant, restez bien avec cela. Vous savez, ce certain verset, je crois que notre précieux frère qui est là et qui a été baptisé hier soir chante ce cantique, « Ô amour de Dieu, je me suis laissé dire que ce verset, cette partie du chant a été retrouvée épinglée au mur de Nazil, cet endroit qui dit, « Si nous remplissions l'océan d'encre, ou si les cieux étaient faits de parchemin, et que tout brin de paille sur terre soit une plume, et tout homme un scribe de son état, écrire à propos de l'amour de Dieu assécherait l'océan et le rouleau, bien que déroulé d'un ciel à l'autre, ne pourrait pas tout contenir. Pensez-y, quand environ les trois quarts de la terre sont de l'eau, et regardez l'hydrogène et l'oxygène qu'il y a dans l'air, l'humidité et le reste, voyez-vous, si toute l'humidité était de l'encre, et pensez aux milliards et aux billions de pailles qui seraient des plumes, et pensez aux milliards d'hommes qui ont été sur la terre et que chacun d'entre eux soit scribe de son état. Trempez ses plumes dans l'océan et essayez de comprendre l'amour de Dieu assécherait l'océan ou le rouleau. Bien que déroulé d'un bout à l'autre de l'éternité ne pourrait pas tout contenir. N'essayez pas de vous l'imaginer. Vous ne le pouvez pas. Vous perdez l'esprit en cherchant à comprendre. Croyez-le simplement. Faites de lui votre absolu. Restez là, une douce paix et une expérience que vous n'oublierez jamais. Ancrez-vous à cela, à votre ancre, tiendra à l'intérieur du voile. Inclinons nos têtes. Comme tu es grand. Combien ici ce matin avec vos têtes inclinées? On s'approche maintenant de l'an nouveau. Et vous avez été très religieux. Et c'est bien, je l'apprécie, chacun de vous. Je suis sûr que Dieu l'apprécie. Mais vous n'avez pas vraiment fait cette expérience de l'absolu. C'est quelque chose que vous n'avez pas simplement fait semblant de croire ou imaginer, mais quelque chose qui vous a répondu. Et alors, vous avez vu votre vie changer depuis ce moment-là. Et chaque parole de Dieu, chaque promesse est ponctuée par un « Amen ». Alors, vous vous tenez à l'absolu, parce que vous rappelez qu'il a dit, « Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira pas. » si vous n'en êtes pas encore arrivé au point où vous pouvez dire Amen à chaque parole, même quand celle-ci s'oppose à votre credo ou à votre dénomination, et que vous vouliez faire comme Moïse et les autres qui ne pouvaient pas faire cela avant d'avoir obtenu cet appel, obtenu, absolu. Si vous voulez cela dans votre vie ce matin, voudriez-vous le faire savoir en levant vos mains vers Dieu? Que Dieu vous bénisse. Très bien, partout dans le bâtiment. Père bienveillant, je sais qu'un jour, nous devons nous séparer. Il doit donc y avoir un temps où nous allons quitter ce monde. Nous ne savons pas quand ce temps viendra. Et cela ne change pas grand-chose. Si notre temps est terminé, alors nous voulons venir. Notre objectif en restant ici, c'est de te servir. Et depuis que nous nous sommes trouvés un jour sur le chemin qui conduit à la destruction, comme Paul sur le chemin de Damas pour aller faire des ravages dans l'Église, et qui fut aveuglé par une lumière. Et ô Dieu, cette lumière l'a suivi, car c'était Christ. Et il s'est ancré là un absolu, si bien qu'ensuite, il pouvait même rire en face de la mort et dire, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. » Tu es devenu un absolu total pour cet apôtre. Il était, tu étais l'amen à chaque phrase. Tu étais l'étoile de sa vie, le poteau indicateur. Tu étais la boussole qui le guidait à travers la tempête. Tu étais la révélation, tu étais la vision, tu étais ses espoirs, son salut. Et même à l'heure de la mort, quand il savait qu'il allait passer par là, tu étais toujours son absolu. Tu étais l'absolu de Daniel. Tu étais l'absolu de tous les prophètes. Au milieu des différences dénominationnelles et des difficultés de leur temps, et des pharisiens, des sadducéens, il y avait néanmoins des hommes qui t'ont pris comme absolu. Et aujourd'hui, Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui ont de la compassion, de l'amour et des cœurs qui saignent, Seigneur, dans l'attente d'une véritable expérience, les amenant à connaître Dieu et à avoir l'assurance d'un absolu. Peut-être, Seigneur, que tout ce que les gens ont connu jusqu'à maintenant, c'était de devenir membre de l'Église. Et nous réalisons, comme j'ai essayé de leur dire, sincèrement, pas pour être indifférent, tu connais mon cœur, que l'on ne peut pas se joindre à l'Église. On peut devenir membre d'une loge, de la loge méthodiste, baptiste, catholique et pentecôtiste. Mais vous naissez dans l'Église, le corps mystique de Christ, et vous devenez membre de son corps avec les dons de l'Esprit pour faire que son grand corps passe à l'action avec puissance. Ô Dieu, que c'est ce que ses mains signifiaient ce matin quand elles se sont levées. Place-moi, ô Seigneur, prends-moi, façonne-moi, forme-moi. Fais que ma position dans la vie soit un tel absolu, attaché à Christ, que je ne penserai à rien d'autre qu'à cet absolu. Accorde-le, Seigneur, bénis-les, guéris les malades et les affligés, sauve les perdus. Maintenant, Seigneur, nous savons que c'est une habitude d'appeler les gens à l'autel, mais c'est devenu une tradition pour nous. Et ce matin, avec l'autel rempli, les petits-enfants et tout, mais Seigneur, d'une manière ou d'une autre, tu leur as parlé, ils ont levé la main, ils ont pris en quelque sorte une décision, ils veulent quelque chose de réel. Et j'offre ma prière en leur faveur, accorde-le à chacun, Seigneur. Sois avec nous maintenant, pardonnant notre péché, guérissant nos maladies et nous donnant la délivrance dont nous avons besoin. Et Seigneur, par-dessus tout, puissions-nous ne jamais oublier aujourd'hui que nous sommes attachés à l'absolu, notre étoile polaire, au calvaire, à Christ et le Saint-Esprit. Prends les paroles de Dieu et les manifeste littéralement pour nous en guérissant les malades, en nous donnant des visions, en ressuscitant les morts et en faisant exactement ce qu'il a promis de faire Et plus cette Église et ses gens faisant partie de la portion du corps de Christ qui est assemblée ici ce matin, puissent-ils vivre comme Jésus l'a dit, vous êtes le sel de la terre, et puissent-ils devenir si salés que les gens de leur commune seront assoiffés. Le sel engendre la soif et le sel conserve pour autant qu'il soit en contact. Et je te prie, ô Dieu, d'accorder ceci aux gens afin qu'ils puissent être aussi des gagnants d'âme. Bénis notre pasteur, Frère Neville, cet humble serviteur se tenant bien respectueusement à son poste en tant que membre du corps de Christ, essayant de son mieux de suivre tout ce que tu lui dis de faire. Bénis les administrateurs, ces hommes qui se sont tenus à mes côtés avec tellement de bienveillance dans ce temps sombre mais important que j'ai traversé. Reste avec l'Église qui a prié avec moi et s'est tenue à mes côtés dans les temps difficiles. Seigneur, je les aime et j'offre ma prière afin qu'ils puissent regarder vers toi, Seigneur. Puissent-ils détourner les regards de l'argile formant ce serviteur mortel? Puissent-ils regarder vers lui qui est l'omnipotent, qui est, et nous savons, Seigneur, que nous sommes limités, peu importe qui nous sommes toujours des mortels. Mais il ne s'agit pas du messager, mais du message. Accorde-le, Seigneur. C'est sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que nous voulons attirer l'attention. Accorde qu'il soit si réel pour chacun ici même, pour les petits-enfants, qu'il deviendra l'absolu de la congrégation entière. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, tandis que nous le chantons de nouveau, serrez la main avec quelqu'un devant vous, derrière vous, à côté de vous, serrez-vous tous la main maintenant. Restez simplement assis, mais retournez-vous et serrez la main de quelqu'un si vous le pouvez. Voyez-vous? Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Ils viennent d'annoncer la communion pour lundi soir à minuit. Levons maintenant nos mains et chantons pour lui. Combien sent qu'il est votre absolu? La parole. Il est la parole. Le croyez-vous? Il est la parole. Et le Saint-Esprit a fécondé cette parole pour faire que cette lumière de la parole vive en vous, la confirmation de la parole. Placez la parole dans votre cœur. Laissez le Saint-Esprit entrer et observez la parole agir. Croyez, soyez humbles. Ne désirez pas être quelqu'un de grand. Soyez un rien du tout. Que Dieu puisse faire de vous un quelqu'un. Voyez-vous? Très bien. Faites cela maintenant. Que tous ceux qui l'aiment disent « Amen ». Vous savez ce que signifie le mot « Amen » ? Ainsi soit-il. Amen. C'est juste, disons « Alléluia ». Vous savez ce que cela signifie? Louer notre Dieu. Quand j'étais en Allemagne, il n'y a pas longtemps, je me suis tenu devant 30 ou 40 000 personnes ce jour-là et j'ai dit, c'est étrange que vous, les Allemands, vous ne puissiez pas comprendre. J'ai dit, comme j'étais en route pour venir ici aujourd'hui, un chien aboyait après moi en anglais. C'est juste, j'ai dit, cela ne lui était pas du tout difficile. Et cela se trouvait un oiseau et il a chanté pour moi en anglais. J'ai suivi la rue et en arrivant ici par l'arrière, il y avait une maman qui tenait son bébé dans les bras. Il a dit, ce bébé pleurait en anglais. Que se passe-t-il donc avec vous? C'est juste, si vous regardez simplement autour de vous, il est partout, n'est-ce pas? Certainement. Maintenant, levons simplement nos mains, fermons les yeux, chantons tandis que nous demandons au pasteur de s'avancer pour terminer la réunion. Levons-nous premièrement, chacun debout sur ses pieds, chacun. L'aimez-vous? Dites de nouveau Amen. Et savez-vous que le mot Alléluia est le même dans tous les dialectes? Allez dans les jungles des Otantos en Afrique, Alléluia est le même mot. Alléluia! Cela devrait être presque une manière chrétienne de se saluer, ne le pensez-vous pas? Alléluia! Le mot signifie louer notre Dieu. Et il en est digne, n'est-ce pas? Il est absolument mon sauveur. Il est absolument pour moi Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est absolument pour moi le même hier, aujourd'hui et pour toujours. L'est-il pour vous? Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire.